Re ou pas re alors? Re?
Re. Eh ben voilà, parfait. Bonjour tout le monde! Nouvelle VOD, du coup, incroyable. Putain, c'est vachement bien fait. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Faites F5, ouais, faites F5. Faites F5 si vous n'avez pas fait F5. Relancez le streaming. Re! Un petit stream. Bilan. Bilan de l'année 2022. Bilan politique. Putain, qu'est-ce qu'on a vécu comme année, les amis? On est le 31 décembre. Ouais, faut regarder dans le rétro, hein. Oh là là. Et donc, c'est fou, hein? Vous avez vu comment. Oh qu'est-ce qu'on peut noter de notable dans cette année 2022, politiquement parlant? Bah, c'est marrant parce que hier soir, j'étais invité sur France Inter dans l'émission Le Téléphone Sonne, animée par Claire Servageant le vendredi. Et au moment où on a posé la question de. Il y avait un auditeur de France Inter qui a téléphoné à l'antenne pour. Pour parler de son année, et l'auditeur a dit 49-3, et l'autre c'est Rassemblement national à l'Assemblée nationale, le RN qui a 89 députés. Et moi j'ai réagi en disant putain, c'est marrant, quand on parle de l'année politique 2022, personne ne parle de la présidentielle. On a quand même vécu une année d'élection. Mais on a l'impression de ne pas avoir vécu d'élection. C'est dû à deux choses pour moi. Trois choses. C'est dû au fait d'abord qu'on a gardé le même président de la République. C'est con, hein, mais le fait qu'on ait réélu Emmanuel Macron fait que bah c'est une année de. Voilà, on a gardé le même président, quoi. Il n'y a pas de changement du côté du président. J'ai bien dit du côté du président. On va parler après du côté du Parlement parce que ça a changé. Mais bon, bah du coup, ça, il y a une continuité. Donc bon, après tout, l'élection, il a été réélu. Donc on continue avec le même. La deuxième raison pour laquelle on a l'impression que l'élection présidentielle, c'est presque pas un fait notable politiquement de cette année, c'est parce que Emmanuel Macron a très peu fait campagne. C'est-à-dire que même lui a en réalité peu mis d'enjeu dans cette élection. On a eu l'impression de passer une élection chelou. On s'interrogeait sur la deuxième et la troisième place. On s'interrogeait et on a tiré des conclusions et des analyses sur la recomposition politique, mais bon, le gouvernement, l'État, de son côté, a pas vécu une année de changement radical, de par la continuité du président et de par le fait que le président lui-même n'a pas fait de cette élection un enjeu majeur de sa réélection. Il a été réélu hors cohabitation, c'est le premier président de la République qui est réélu hors cohabitation. Les deux présidents de la République précédents qui avaient été élus une deuxième fois, c'était Mitterrand et Jacques Chirac. Mitterrand en 88 et Jacques Chirac en 2002. Et les deux ont été réélus parce qu'avant ça, ils étaient en cohabitation. C'est-à-dire que ce n'était pas eux qui avaient le pouvoir. Ce n'est pas eux qui avaient le pouvoir. Donc, c'était une élection importante pour eux. C'était non seulement leur maintien à l'Élysée, l'enjeu, mais c'était aussi le changement de direction politique du pays. En 88, Mitterrand disait aux Français « Votez pour moi pour dégager Chirac ». Et avoir un gouvernement de gauche. Donc il avait changé la politique, quoi. Votez pour moi pour changer la politique. Et Chirac en 2002, pareil. Votez pour moi pour dégager Jospin. Pour que ce soit plus les socialistes au pouvoir et que ce soit à nouveau la droite. Donc en fait, c'était des élections, c'était certes des réélections de président, mais c'était des réélections à enjeu. Là, Emmanuel Macron, il n'était pas en cohabitation, il avait le pouvoir depuis 5 ans. Donc il a dit aux Français, votez pour moi et on continue. En gros. Donc, c'est une élection, une espèce de non-élection un peu particulière pour cette raison-là. Et la troisième raison pour laquelle, pour moi, cette élection présidentielle semble finalement peu importante dans cette année 2022, c'est parce que les enjeux dépassaient la question présidentielle. Les enjeux du moment, c'était la guerre en Ukraine. On parle quand même de guerre sur le territoire européen. Enfin voilà, on a été saisi par l'effroi de cette guerre. On parle de crise énergétique. Qui est partout en Europe et dans le monde entier, crise climatique, crise énergétique, on parle de crise du pouvoir d'achat, crise du populisme, de la démagogie, de la montée de l'extrême droite, mais ça c'est partout pareil. Donc, cette élection présidentielle, elle avait un espèce d'arrière-goût chelou, de contre-temps. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand on regarde dans le rétro de l'année 2022, moi j'ai plein de mots qui me viennent en tête, mais pas forcément présidentiel, quoi. Alors que c'est censé être l'élection la plus importante du pays, bah. Oui, je sais pas. En revanche, je ne veux pas non plus dire que c'est une année où il n'y a pas eu de changement, il y a eu du changement. Et le premier des changements, c'est pour moi le plus important, ça s'est vu en fait davantage aux élections législatives. C'est quand même marrant. Les élections législatives étaient plus intéressantes que l'élection présidentielle. Et le résultat était plus intéressant que l'élection présidentielle. C'est fou quand même, toi qui as la tête plongée dedans, tu dis ça. Bah ouais, parce que pour moi, le changement, il est arrivé au Parlement, il n'est pas arrivé à l'Élysée. On a gardé le même président, certes, mais en fait, on a beaucoup changé. Et quand je dis on a beaucoup changé, notre système a évolué de par la recomposition politique, la tripolarisation du paysage politique, qui a été confirmée. Merci Bébé Clouk pour les 5 subs, merci beaucoup.
Cette étude, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup, merci, merci, merci pour les 5 subs offerts. En tant que du côté du Parlement, là, ça devient rigolo. Là, ça devient rigolo parce qu'on a une tripolarisation du paysage politique autour d'un bloc de centre-droit autour d'Emmanuel Macron et de sa politique. On a un bloc de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon et de ses alliés, on en reparlera. Et on a un bloc de l'extrême droite autour du Rassemblement national. Et ça, cette tripolarisation, notre paysage politique n'est pas habitué à ça. Le quinquennat précédent d'Emmanuel Macron, c'était un bloc massif de La République En Marche au milieu, et du côté un peu de gauche et un peu de droite. Mais pas énormément. Plus de droite que de gauche d'ailleurs. Mais pas énormément. Là, ce nouveau paysage politique, on le voit d'abord dans la majorité relative qui force les 49-3, mais on le voit aussi dans le fait qu'il y a trois énormes blocs dans notre vie politique, qui pourtant n'est pas faite pour fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça, pour moi, quelque chose qui est marquant. L'autre truc qui est marquant, donc je le disais, c'est la majorité relative. Emmanuel Macron a été réélu avec une majorité relative. Je pense que les Français ne pouvaient pas faire pire cadeau à Emmanuel Macron que le réélire et tout de suite lui filer une majorité relative. Pour moi, c'est le pire truc qu'on pouvait lui faire. C'est-à-dire que je pense que le meilleur cadeau qu'on aurait pu faire à Macron, c'est le réélire et lui donner une majorité absolue. On aurait été tranquille. On aurait fait la continuité des 5 précédentes années, tout droit, quoi. Avec son ambition de réforme, machin. On aurait eu, en deuxième scénario, un peu moins catastrophe, la cohabitation. C'est-à-dire Emmanuel Macron est président de la République, mais il a un autre Premier ministre. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, au hasard, ou Marine Le Pen. Emmanuel Macron n'aurait donc plus le pouvoir, il aurait été un simple président de la République sans trop de pouvoir et donc le gouvernement ça aurait pas été lui. Et non, les Français qui ont beaucoup d'humour ont décidé de faire un entre-deux et de lui dire non seulement tu vas être réélu mais en plus on va te filer une majorité relative. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme si les Français inconsciemment avaient dit à Macron on va te forcer à gouverner avec les autres, on va te forcer à discuter, on va te forcer à faire un truc que tu ne sais pas faire, c'est faire un travail parlementaire, du compromis. Alors quand je dis que c'est pas faire de compromis, il met en avant la culture du compromis, mais il n'a pas la culture du dialogue qui va avec la culture du compromis. Donc, pas tout à fait pareil. Et donc, je pense vraiment que Macron, il doit être démoralisé de se dire « Putain, mais quel enfer. Je suis toujours président, mais maintenant, je passe pour Monsieur 49-3 parce que je ne peux pas faire de compromis. La NUPES ne veut pas compromettre. Enfin, je ne veux pas faire de compromis qui rayerait définitivement de ma carte la politique que je veux mener. Donc, je suis majoritaire, mais je n'ai pas complètement la majorité. » Donc c'est... je me dis vraiment, je pense qu'Emmanuel Macron, là, en ce moment, il s'endort le soir, il broie du noir en se disant « Putain, j'aurais tellement préféré être en cohabitation. Oh. » T'imagines ? On aurait eu Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Alors certes, Emmanuel Macron n'aurait pas eu le pouvoir, donc bon, c'est con, il n'aurait pas pu faire la politique qu'il veut, mais ça aurait été à Jean-Luc Mélenchon de devoir gérer la merde. C'est-à-dire que c'est Jean-Luc Mélenchon qui se serait coltiné la lutte contre la crise énergétique, la guerre en Ukraine, la crise du pouvoir d'achat, il serait démerdé. Jean-Luc Mélenchon, il aurait fait des 20 heures de TF1 et de France 2, il aurait dit aux Français, écoutez, finalement, l'avenir en commun, ça va être un peu plus compliqué que ça. Tout bien réfléchi, on va pas fermer les centrales nucléaires. Non, on va pas fermer les centrales nucléaires. Bon, oui, je sais, je vous l'ai promis, mais on va pas fermer les centrales nucléaires. Non, non, non. Bon, en tout cas, pas tout de suite. Enfin, on va prendre notre temps. On va bien prendre notre temps. ouais. Ouais, non, il aurait dû gérer toutes ces merdes-là et Emmanuel Macron aurait pu garder une cote de popularité et revenir en 2032. Youpla boum, salut les jeunes, le réformiste, revotez pour moi. Et là, donc, non, et en fait, c'est tout l'inverse. C'est qu'Emmanuel Macron, il se retrouve au pouvoir à grand coup de 49-3, à passer pour un autoritaire, je dis à passer, non pas que je le juge autoritaire ou pas, c'est pas à moi de porter un jugement dessus, mais que lui, dans son point de vue, il doit se dire putain, mais les Français doivent me voir comme un espèce de dictateur qui fait des 49-3, mais en fait, j'ai pas le choix, c'est parce que les oppositions, elles sont méchantes avec moi, etc. Je dirais, ouais, bah ouais, mon gars, mais bon, 49-3 tout le temps, pour faire passer ses budgets. Il n'y a pas de possibilité que Jean-Luc gère suffisamment. Ah bah j'en sais rien, on peut pas réécrire l'histoire, mais enfin bon, si la politique c'était l'endettement, je suis pas sûr que ça aurait pu durer très très longtemps. Tu vois, les taux d'intérêt se seraient envolés. Est-ce qu'on aurait maintenu des taux d'intérêt très bas avec un Jean-Luc Mélenchon qui aurait probablement fait repartir la dépense publique, un fort taux d'imposition sur les entreprises et sur les plus hauts salaires, est-ce que ça aurait permis une reprise et tout? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Politique de redistribution, est-ce que ça aurait été durable? J'en sais rien. Donc, Macron, c'est Fillon qu'on n'a pas eu en 2017. Non, c'est pas tout à fait pareil. Parce que Macron, de fait, à l'exercice avec le Covid, s'est retrouvé dans une politique de dépenses publiques très importante, ce qui n'était pas tout à fait dans sa philosophie. Et surtout, tu vois l'ambition réformiste d'Emmanuel Macron qui est en train de disparaître. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une rupture aussi dans la diction elle-même. Le côté embarquer les gens et de droite et de gauche pour mener ensemble les réformes qui s'imposent, c'était un discours qui marchait en 2017, mais en 2022, ça marche plus. La preuve, la réforme des retraites. Il est même plus question de la retraite à points. Il est même plus question de créer un régime unique. Il est même plus, enfin, la réforme de la formation professionnelle, c'est pareil. Même Muriel Pénicaud, elle n'est pas trop contente. Merci Mobutu76, merci PJN, merci pour vos primes, merci beaucoup. Merci Bougie. Vous savez qu'avec Amazon Prime, vous pouvez vous abonner à ma chaîne gratuitement en faisant payer Jeff Bezos. La réforme du chômage, c'est plutôt bien vu par la droite. La réforme de l'assurance chômage, oui, alors la philosophie consiste à remettre les gens au travail. Enfin, là, Emmanuel Macron, il a décidé de forcer le plein emploi, d'aller au plein emploi à marche forcée. Ça commence quand Baxit le 5? Vous verrez. A priori, le 5, ça va être difficile. Ce sera probablement la semaine suivante. Mon bilan personnellement, niveau politique, c'est d'être plus à l'écoute des gens qui sont pas de la même idéologie que moi, et c'est en grande partie grâce à ton stream. Ah bah écoute, j'en suis très heureux. Bon, très très heureux si j'ai eu cet effet-là, de te permettre de tendre l'oreille, écoute, très heureux. Merci Zappy pour ton prime. Talbiou d'Angèle Javel. Ah, Angèle! Ma tante avec qui t'as bossé au ministère de la Santé, conseillère d'ATA. Mais oui, elle te passe le bonjour. Tu peux lui renvoyer le bonjour de ma part, s'il te plaît, c'est ta tante. Des bisous, Angèle. J'aimais bien Angèle. C'est vrai que c'était ma collègue. Eh ben, des bisous, Angèle. Tu lui passeras merci à toi, en tout cas, ça me fait plaisir. Merci, Majestic Vince, pour ton prime. Merci, Pipou. Tac, 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 qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Macron va réduire le chômage pas en créant des emplois, mais en supprimant les gens à compter. Il y a le tripatouillage classique des chiffres du chômage, mais il y a aussi la formation professionnelle. Mettre des chômeurs en formation pour non seulement les faire sortir du chiffre de chômage, mais surtout leur permettre, grâce à leur formation, de retrouver plus facilement un emploi ou un autre emploi. Merci Darsaliot. Il y avait un assez bon article dans Le Monde. Je vais essayer de vous le retrouver parce que je l'ai lu dans le train hier. Et je me suis dit, tiens, ça, faudra que je le lise au chat. C'était un peu le bilan 2022 de la politiste dont j'ai oublié le nom. Ouais, c'est la chronique. C'est bon, je l'ai retrouvé. Yes, je suis content. Je l'ai retrouvé. Merci Moustix! Merci Moustix pour les 10 subs, merci beaucoup pour les 10 subs!
Combien?
10 subs, merci beaucoup pour les 10 subs offerts au chat!
J'arrive.
Merci!
J'arrive.
Incroyable, merci beaucoup!
Casse.
Allez, on s'ambiance! Merci beaucoup, merci pour les 10 subs offerts au chat, merci beaucoup. C'est très généreux. alors que j'étais parti pour vous lire cet article que j'ai bien aimé, une chronique de Françoise Fresseau, qui est éditorialiste au Monde, et qui a écrit une chronique « Le volontarisme que déploie Emmanuel Macron n'a pas faibli, mais un ressort s'est cassé et un fossé s'est creusé ». Donc elle essaie d'expliquer ça. Qu'est-ce qui a changé selon elle dans le macronisme entre le premier et le second quinquennat, compte tenu du contexte, compte tenu peut-être d'Emmanuel Macron lui-même. Voilà. Les revirements et durcissements sur les dossiers de la formation professionnelle, des retraites et du chômage expliquent pourquoi le président a aujourd'hui tant de mal à entraîner les Français, explique Françoise Fresseau, éditorialiste au Monde, dans sa chronique. Alors on va lire cet article parce que j'aime beaucoup son analyse. Le coup de colère de Muriel Pénicaud qualifiant d'erreur économique et sociale la réforme du compte personnel de formation n'a pas fait les gros titres. Muriel Pénicaud, hein, je vous rappelle, c'était la ministre du Travail qui a mis en place la réforme qui a créé le CPF, le compte personnel de formation. Vous savez, voilà. CPF, le CPF a été réformé pour lutter contre l'explosion des dépenses que ça a été entraîné. Et Muriel Pénicaud a vertement critiqué cette réforme en la qualifiant d'erreur économique et sociale. Il est pourtant symptomatique de l'évolution de la politique sociale d'Emmanuel Macron d'un quinquennat à l'autre. Nommée en mai 2017 ministre du Travail, l'ancienne directrice générale des ressources humaines du groupe Danone, Muriel Pénicaud, s'est fortement investie dans la réforme de cet outil qui permet à toute personne active d'acquérir des droits à la formation et de les mobiliser à des moments clés de son parcours professionnel. C'est ça le CPF. Muriel Pénicaud, donc, en créant un système de crédit en euros et non plus en heures, comme c'était le cas avant, en l'adossant à une plateforme en ligne ouvrant la voie à un large éventail de titres, donc de formations, de diplômes et de certifications, le gouvernement de l'époque voulait rendre chaque bénéficiaire maître de sa vie professionnelle. Vous pouvez choisir quand vous voulez de vous payer les formations professionnelles que vous voulez grâce à votre compte personnel de formation. Vous êtes maître de votre parcours professionnel. Si vous voulez apprendre la pâtisserie pour devenir pâtissier après avoir été contrôleur fiscal, vous pouvez le faire, c'est vous qui choisissez la formation, vous avez un compte en euros qui est abondé, vous pouvez le compléter de votre poche si vous le voulez, etc. etc. Cette libéralisation a tant bien réussi que 5 ans plus tard, sur fond d'envolée des dépenses, eh oui, le CPF est très très déficitaire, et des offres de formation pas toujours très sérieuses, ça vous connaissez comme moi, l'exécutif s'est cru obligé de mettre un verrou au dispositif. Donc finalement, ils ont rétropédalé, ils ont mis un verrou. Désormais, à moins d'être chômeur ou d'être mis en accord avec son employeur, il faudra payer un peu de sa poche pour financer sa formation. Et ça, Muriel Pénicaud, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas contente. C'est pas comme ça qu'elle avait voulu le faire. Là où le gouvernement y voit une manière de responsabiliser les utilisateurs, l'ancienne ministre y lit une remise en cause préoccupante du droit acquis à gérer librement sa formation. Muriel Pénicaud se montre particulièrement inquiète pour les catégories populaires qui risquent d'être découragées par l'institution d'un reste à charge. Le reste à charge, c'est donc ce que vous allez devoir payer. Aujourd'hui, 80% des bénéficiaires sont des ouvriers et des employés. La moitié sont des femmes et 20% sont des plus de 50 ans, a-t-elle répété la semaine dernière dans de nombreux médias. Donc Muriel Pénicaud, elle refait la tournée des médias pour dire « Attendez, moi, la réforme que j'ai créée, elle est utile aux gens à qui ça devait être utile. C'est pas des cadres supérieurs qui se forment machin pour gagner encore plus. C'est des employés, c'est des ouvriers, c'est des femmes. C'est des gens qui ont plus de 50 ans, qui sont en requalification pour travailler parce que c'est plus dur d'être embauché après 50 ans, etc. Et là, on va leur faire payer à eux le déséquilibre économique du système alors qu'ils ne sont pas responsables. Et on va leur faire payer à eux le fait qu'il y a une gabegie, qu'il y a des formations à la con, etc. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est à l'État de mieux contrôler les formations, les arnaques au CPF, etc. Elle n'est plus ministre, Pénicaud. Non, elle n'est plus ministre. Là où le gouvernement... La nouvelle approche qui prévaut, à propos du compte personnel de formation, est parfaitement duplicable à la réforme des retraites. Alors on va changer de dossier, mais vous allez voir que c'est la même logique. En 2017, il s'agissait de donner naissance à un nouveau système, la retraite par points, dont la finalité revendiquée était de permettre à chacun de maîtriser son destin. Présentée pendant la campagne présidentielle comme une promesse d'émancipation, la fusion des 42 régimes existants en un seul régime unique de retraite était supposée ne faire que des gagnants et permettre à chacun de choisir son âge de départ à la retraite en fonction du nombre de points acquis. Vous avez un nombre de points et c'est vous qui décidez de l'âge auquel vous participez à la retraite. Plus vous avez de points, plus vous avez une pension de retraite élevée. Moins vous avez de points, moins vous avez une pension de retraite élevée. On peut créer, si on veut, des points supplémentaires pour les métiers pénibles et les longues carrières, etc. Mais en fait, c'est vous qui choisissez quand vous partez. C'était ça la philosophie de la réforme en 2017. Lorsque la réforme s'est précisée, en 2019 et en 2020, le mythe s'est effondré. Les perdants, car il y en avait, se sont bruyamment manifestés. Rappelez-vous les manifs contre la réforme des retraites. Et l'irruption d'un âge pivot sans lequel le système ne pouvait être équilibré est venue à bout de l'idée du libre choix. En fait, c'était... On vous a dit que vous seriez libre et que c'est vous qui décideriez quand est-ce que vous partez. Bon, en fait, on va mettre un âge pivot qui est 64 ans. Et en fonction de si vous partez après ou si vous partez avant, vous avez des bonus ou des malus. Donc en fait, on recrée en fait une barrière. On recrée un âge de départ à la retraite, c'est 64. Lorsque, trop ambitieuse et mal ficelée, la réforme a été abandonnée pour laisser place durant la campagne présidentielle de 2022 à un projet à la fois plus classique et plus brutal. Au lieu du libre choix, l'obligation de travailler plus longtemps avec comme objectif le départ à 65 ans, comme le font déjà la plupart de nos partenaires européens. En place du rêve, l'alignement et la normalisation. Le rappel de ces deux évolutions majeures, donc voyez le parallèle qu'elle fait, Françoise Fresneau. Elle fait un parallèle entre la réforme de la formation professionnelle, du compte personnel de formation et la réforme des retraites en disant en fait, dans les deux cas, il y a eu un shift. Il y a eu une promesse d'émancipation, d'autonomisation des individus. Vous allez devenir maître de votre parcours professionnel et de votre formation. Vous allez devenir maître de votre parcours professionnel et de votre départ à la retraite. Sauf qu'en fait, bah, dans un cas comme dans l'autre, on a mis en place des verrous et des systèmes qui font que, bah, en fait, non. Loin de la maîtrise rendue aux gens, on se retrouve dans un système où, en fait, t'as pas vraiment la maîtrise des choses et il y a quand même des barrières, etc. Le rappel de ces deux évolutions majeures sur les deux dossiers sociaux emblématiques permet de mieux comprendre pourquoi le président de la République a aujourd'hui tant de mal à entraîner les Français. Sur le fond, son ambition n'a pourtant pas changé. Emmanuel Macron, c'est toujours Emmanuel Macron. Hein. Son ambition réformatrice, tout ça, il a pas changé d'adresse, Macron. Hein. Depuis sa première élection en 2017, il cherche à muscler la souveraineté nationale et européenne dans un monde de plus en plus menaçant. Pas changé, ça je suis d'accord avec elle, Macron dit toujours la même chose, il n'a pas bougé. Redonner le pouvoir d'agir, retrouver de la souveraineté en matière industrielle, en matière numérique, retrouver de l'autorité, permettre à chacun de retrouver de la souveraineté sur sa propre vie, etc. Donc le fond n'a pas changé, le macronisme reste le macronisme. Mais sur la forme, Emmanuel Macron peut se targuer de quelques résultats en matière de croissance, d'emploi, d'attractivité. Le volontarisme qu'il déploie sur la scène européenne et mondiale pour contrer la vulnérabilité de l'Union européenne n'a pas faibli. Mais un ressort s'est cassé et un fossé s'est creusé. Depuis les dernières élections législatives, au terme desquelles une majorité absolue lui a été refusée, la représentation nationale apparaît plus divisée que jamais et les Français se sont réinstallés dans une profonde déprime, convaincus d'un inéluctable déclin. Dans son livre « Chaos », essai sur les imaginaires des peuples, aux éditions du Cerf, le politiste Stéphane Rosès fournit une explication plausible à ce décrochage. En 2017, explique-t-il, Emmanuel Macron était parvenu à récupérer l'énergie d'une nation déprimée et pessimiste. Et il avait fait ça en plaidant « c'est nous qui décidons, on peut le faire, on va se mettre en marche ». D'où le nom de son parti. La promesse de l'émancipation était une façon de remettre en mouvement une société qui apparaissait divisée et bloquée. Comme à chaque révolution, il fallait une victime expiatoire, et ce fut le vieux monde. Rappelez-vous Emmanuel Macron en 2017, rappelez-vous, le vieux monde, Emmanuel Macron c'est la modernité, c'était très giscardien, c'est la modernité, c'est le renouveau, c'est le changement, le vieux monde est derrière nous, tous ces vieux caciques, tous ces vieux partis, tous ces vieux syndicats qui passent des heures à négocier, etc., tout ça s'est dépassé, c'est le vieux monde, la victime expiatoire de cette ambition. Le vieux monde, par ses pesanteurs qui étaient responsables d'entraver la dynamique. 5 ans plus tard, l'accumulation de crises en tout genre, Covid, Ukraine, énergie, pouvoir d'achat, a eu raison de cette projection optimiste. S'adapter et éponger sont redevenus les leitmotifs d'un pays qui a l'impression de ne faire que cela depuis le tournant de la rigueur en 83. Face à l'ampleur des déficits et de la dette, Emmanuel Macron est conduit, comme ses prédécesseurs, à serrer la vis sous peine de perdre toute crédibilité. La réforme du compte personnel de formation vise à freiner la dépense, celle de retraite est devenue indispensable, non seulement pour équilibrer le système, mais aussi pour assurer Bruxelles. Quant au durcissement des règles de fonctionnement de l'assurance chômage dont les syndicats furieux découvrent chaque jour un peu plus l'ampleur, il vise à atteindre à marche forcée le plein emploi. En finir avec le chômage de masse constitue aujourd'hui l'horizon du double mandat d'Emmanuel Macron, le marqueur qu'il a choisi pour mesurer sa capacité à transformer le pays. L'ambition pourrait passer pour consensuelle si le travailler plus, devenu l'unique mantra du second quinquennat, ne se heurtait pas à une crise sans précédent des vocations et du sens du travail. Échaudés par près de 40 années d'adaptation à une crise perpétuelle, les Français n'ont pas le sentiment d'être devenus maîtres de leur destin. Ils cherchent juste, une fois de plus, à ne pas trop y perdre. J'aime beaucoup cette analyse de Françoise Fresseau, qui cite le politiste que je vais vous retrouver, Stéphane Rosès, en disant que... En disant que le volontarisme politique de 2017 s'est muté petit à petit en une politique finalement très classique. Macron est redevenu un président à l'ancienne. C'est lui le vieux monde, en fait. Il faut... Ah, vous rendez compte, ma bonne dame, vu le contexte, il faut réformer les retraites. Vous vous rendez compte, il faut réformer le compte personnel de formation pour arrêter de perdre de l'argent. Il faut réformer l'assurance chômage pour arriver au forceps à 5 ou 6% de chômeurs. Et donc du coup, en fait, le mythe n'est plus du tout le même. On ne dit plus aux Français, allons-y, créons ensemble un nouveau système de retraite qui va nous permettre à chacun de redevenir maître de notre carrière professionnelle. Créons ensemble un système où on va retrouver des marges de manœuvre et tout. Et je trouve ça très intéressant, la manière qu'elle a de cette mutation du macronisme, d'un truc qui se paraît d'espoir pour devenir un truc en fait très gestionnaire et très classique. La rigueur classique. Non, la rigueur, c'est pas exactement... la rigueur, l'austérité, c'est encore autre chose. Donc j'aime bien cette idée que Emmanuel Macron s'est muté d'un président volontariste et réformateur en premier quinquennat en un gestionnaire finalement assez peu habile politiquement dans ce deuxième quinquennat. Là où je suis quand même très content de cette année 2022, c'est que les élections législatives, en créant une majorité relative à l'Assemblée nationale, ont redonné de l'enjeu au Parlement. Et moi qui suis à titre personnel assez parlementariste, je suis content de voir que le Parlement redevient un Parlement où ça discute, où ça négocie, où il y a de l'enjeu. On n'est pas sûr que la réforme va passer, on n'est pas sûr que la loi va être votée, on n'est pas sûr que le gouvernement va discuter, on n'est pas sûr que les oppositions vont jouer le jeu, on a des surprises. Voilà. Ce changement, il est voulu par lui ou il est un peu subi? Il est un peu subi, clairement. Non, Emmanuel Macron, il n'aurait pas voulu ça. Il est subi. Il est subi par une conjoncture économique très compliquée, par le Covid, par la guerre en Ukraine, par la crise énergétique. Il est en grande partie subi. Hein. Emmanuel Macron aurait préféré que le Covid n'existe pas, il aurait préféré que la guerre en Ukraine n'existe pas, qu'il n'y ait pas de crise énergétique, etc. On est sûr que ça finira en 49-3. Non, mais les 49-3, là, il y en a eu beaucoup parce que c'était la phase budgétaire. Mais à partir de janvier, je vous rappelle qu'on n'est plus dans une phase budgétaire. Hein. Donc, on va avoir un rythme différent. Il est à l'origine de la crise énergétique sur l'électricité. Non, Emmanuel Macron n'est pas à l'origine de la crise énergétique sur l'électricité. Alors, on va se calmer. Il est responsable de la fermeture de Fessenheim et a fermé des réacteurs. Non, putain la vache. Non, la fermeture de Fessenheim n'est pas à elle seule responsable de l'augmentation du prix de l'électricité. Non, Emmanuel Macron n'a pas fermé des réacteurs. Il n'est pas allé la nuit avec son petit tournevis éteindre des réacteurs. Il y a eu des dérapages dans le calendrier de réparation et d'entretien des réacteurs, en partie à cause du Covid. Emmanuel Macron n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine en l'envahissant avec ses troupes, donc il n'a pas créé d'instabilité sur le marché du gaz et du pétrole. Je veux bien qu'Emmanuel Macron ait beaucoup de tares, hein, critiquable sur bien des points, mais non, Emmanuel Macron n'est pas responsable de votre sciatique, si vous êtes réveillé ce matin avec mal au dos. Voilà. Il est responsable de rien. Ah, il est responsable de la réponse qu'il apporte face aux crises. Je dis pas qu'il est responsable de rien. Il est responsable de la réponse qu'il apporte. Donc Macron n'a pas inventé le Covid, mais Macron est responsable de la politique qui a été menée pour enrayer le Covid. Donc on peut le critiquer sur la politique. Vous voyez la différence entre les deux ou pas? C'est qui l'asiatique alors? Macron a vidé mon frigo. Euh... Donc là, Macron, il est responsable des décisions qu'il prend aujourd'hui pour lutter contre la crise énergétique. Ça, clairement, hein, je dirais pas, non, c'est pas de sa faute. Étonnant. Il y a les décisions qu'il prend, le chèque énergie, la prime à la pompe, qui d'ailleurs, je vous rappelle, au 1er janvier se transforme en chèque carburant pour les personnes les plus pauvres. La politique internationale vis-à-vis de la Russie sur le gaz, le pétrole, etc. Il est responsable de tout ça. Hein. Tu dis qu'ils utilisent le 49.3 pour le budget. Ils peuvent quand même utiliser le 49.3 après la phase budgétaire. Oui, mais sur un seul texte. Pas sur tous les textes qu'ils veulent. La vente d'Alstom à General Electric, c'est Macron. Oui, mais c'est pas la vente d'Alstom à General Electric qui a changé le prix du carburant. Je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise décision. Je dis juste qu'il faut pas tout mélanger. Et je dis pas que c'était une bonne décision de vendre Alstom à General Electric. C'est que vous ne pouvez pas accuser Macron d'être responsable de la guerre en Ukraine sous prétexte qu'il a vendu Alstom à General Electric il y a plusieurs années. De ton point de vue, dans quelle mesure il y aura un avant, un après Macron en termes de pratique, doctrine politique en France ? Écoute, j'en sais rien, quitte à être en sujet, sachez que vous êtes une bien grande personne, je tiens à vous saluer cordialement, à bon entendeur, j'ai pas raison la team. Merci Kouef, des bisous à toi. Bonne année mon poulet, j'ai hâte de te voir. Que 2023 soit une année où je te croise plus fréquemment, mon bon Kouef. Dans quelle mesure il y aura un avant, un après Macron dans la pratique du pouvoir ? Je pense qu'il y aura un avant, c'est difficile, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'Emmanuel Macron est le dernier président de la 5ème République. Dans le sens où on pratique cette 5ème République, c'est-à-dire cette espèce d'ultra-présidentialisme autoritaire, irresponsable, ça peut pas durer. Il l'avait reconnu lui-même d'ailleurs. Emmanuel Macron l'avait dit au moment après le Covid. Emmanuel Macron lui-même, après le Covid, en juillet 2021 ou 2022, je sais plus, avait dit il y aura un avant et un après, on peut pas continuer à gouverner de la même manière. Regardez, la crise du Covid nous a rappelé beaucoup de choses sur la souveraineté énergétique, la souveraineté industrielle, etc. Mais aussi sur la méthode de gouvernement, on peut pas... Il avait dit moi le premier, je dois changer moi le premier, bah vas-y. Il a pas vraiment changé quoi. Emmanuel Macron ne pratique toujours pas le dialogue social, c'est pas son truc. Il se coordonne pas avec les syndicats... Les syndicats sont vent debout contre la réforme des retraites, il en a rien à foutre, il veut y aller à fond sur 65 ans. Les syndicats sont vent debout contre les réformes de la réforme de l'assurance chômage, il en a rien à foutre. Même la CFDT, qui pourtant pourrait être un pilier sur lequel il pourrait s'appuyer, il veut pas le savoir. Voilà, mais Macron, il fonce tout droit, sauf que je pense qu'il a plus les moyens de foncer tout droit. Il a plus la majorité qu'il avait avant, quoi. Est-ce qu'on va regarder ensemble les vœux présidentiels ou est-ce que c'est aux F-tiers ? Je sais plus à quelle heure c'est à 20h ? Non, il est 17h là. Mais Borne, oui. Bah, il paraît que Borne, elle est en guerre contre l'Elysée parce qu'elle, justement, elle veut... Borne, je pense qu'elle a mieux compris que Macron la situation politique et qu'elle est plutôt chaude pour discuter, travailler, amender. Je suppose que Borne ne serait pas contre négocier... l'âge de départ à la retraite, un calendrier, un créneau, des contreparties sur les carrières longues, sur la pénibilité. Voilà. Que cherche in fine Macron ? Moi, je suis assez d'accord avec Françoise Fressot. Hein. Ce que cherche in fine Macron, c'est la fin du chômage de masse. Macron, il est prêt à tout pour qu'en 2027, on soit au quasi plein emploi. Et ça, s'il faut y aller au forceps, on ira au forceps. En gros, sa logique, elle est là. Elle est dit, moi, je veux laisser le souvenir d'un président qui a remis la France au travail. Ensuite, je me barre. Je fais autre chose, parce que de toute façon, je pourrais plus... Voilà. Merci, Snafu. Il peut devenir Premier ministre, ouais, enfin, faudrait qu'il ait une majorité pour ça. Je vois pas pourquoi il aurait une majorité en 2027 qu'il a pas eu en 2022. Mais bon, on peut être surpris. Dès 2017, il avait fait du chômage de masse le truc sur lequel il devait être jugé post-mandat.
Ouais.
Alors, il le dit pas, parce que je pense qu'il a appris les erreurs de Hollande. Hollande, il avait conditionné la réussite de son quinquennat à l'inversion de la courbe du chômage. Ça n'avait pas marché. Forcer les gens à faire des boulots qu'ils ne veulent plus, alors que le sens même du travail est de plus en plus remis en cause, ça risque de bloquer sévèrement. D'où la réforme de la formation professionnelle. Dire aux gens, bah, si vous ne voulez pas faire ces métiers-là, changez. Changez de métier. Évoluez, bougez. Apprenez d'autres métiers. Sortir du chômage à quel prix avec l'augmentation des emplois précaires? Bah, c'est le risque et le creusement des inégalités, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de formule magique. Hein. Sortir du chômage, oui, mais pour faire quoi? Le plein emploi, mais quel emploi? J'ai pas dit que c'était une bonne ou une mauvaise idée. Hein. J'ai dit que c'était la mesure sur laquelle lui il comptait être jugé. La réduction du chômage. Ça fait 40 ans que tous les politiques se pètent les dents dessus. Le chômage de masse s'est installé depuis les années 70. Voilà, depuis les chocs pétroliers, en gros. Macron veut être le président réformateur qui laissera le souvenir d'un dynamisme, d'une remise au travail et d'une France qui retrouve le chemin de la croissance, de la souveraineté. Le tout dans une perspective, évidemment, c'est le tout dans une réindustrialisation, plus d'autonomie, plus de souveraineté économique, dans les objectifs bas carbone de l'Union européenne, etc., et de la loi climat. Voilà. Comme l'Allemagne avant Merkel. Oui, en gros, c'est ça. Ou Gerhard Schröder. Donc, voilà. Donc, pour 2022, on peut retenir, du coup, ces élections législatives qui ont définitivement, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais inscrit dans le temps et dans la durée la tripolarisation du paysage politique et, par là même, le blocage de l'Assemblée nationale, qui n'a été débloqué qu'à grand renfort de 49-3. Est-ce que la solution est tenable dans le temps? Je ne sais pas, je ne pense pas. On verra bien. À mon avis, 2023 va être une année intéressante parce que c'est là qu'on saura si ça passe ou si ça casse. Soit il y a une méthode qui est trouvée, soit c'est dissolution en 2023. Je vois pas comment... Le Rassemblement National 89 députés. Alors oui, 2022 aura aussi été l'année où Marine Le Pen s'est à nouveau retrouvée au second tour de l'élection présidentielle. Mais cette fois-ci, elle a réussi à transformer l'essai. Contrairement à la précédente, Marine Le Pen a réussi à inscrire plusieurs dizaines de députés. Je pense qu'il y aura dissolution. Ça va beaucoup dépendre de la réforme des retraites. On verra. Je pense que Marine Le Pen est dans la continuation de sa stratégie de dédiabolisation. Marine Le Pen essaye d'inscrire son mouvement dans une stratégie institutionnelle. Elle veut devenir la bonne élève des institutions de la Ve République. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre de l'année 2022 vu que la présidentielle était finalement assez OSEF. Est-ce qu'on a le droit de rigoler? Si t'as envie, ouais, je vais pas t'empêcher. Zemmour était pas si hype finalement. Alors ouais, tiens, 2022 aura été l'année de l'essoufflement de la stratégie Zemmour. C'est vrai, la bulle Zemmour qui avait commencé à caracoler dans les sondages en septembre-octobre 2021 à base de 16%, 17% d'intention de vote, qui finalement finit à 7%. Qui finit à 7%, virgule, sans aucun député. C'est vraiment pas ouf pour sa formation. N'empêche que c'est pas une trajectoire qu'il faut lire indépendamment des autres, donc ça reste une trajectoire qui dit quelque chose de la radicalisation à l'extrême droite d'une partie du paysage politique. C'est-à-dire qu'en faisant une politique plus à droite que Marine Le Pen, il a participé à la recentrer et à l'aider, du coup, dans sa stratégie de normalisation. On peut quand même relever l'échec complet de la droite républicaine. On peut relever l'échec complet de tous les partis classiques de gouvernement. Les Républicains, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, ces partis, et le Parti Communiste, ces partis classiques se sont pété la gueule à l'élection présidentielle. Donc moi, je pense que ça marque l'avènement d'une ère de radicalité dans le paysage politique national. C'est tout le paradoxe, je vous disais, entre les élections locales et les élections nationales. Aux élections nationales, les partis politiques qui fonctionnent bien, qui font des bons scores aux élections, sont les partis qui sont des partis qui réussissent à saisir la radicalité du temps et du moment. Et donc, y compris la radicalité dans le conservatisme. Hein. Je ne dis pas que la radicalité est nécessairement révolutionnaire, au contraire, pas toujours. Et en même temps, les élections intermédiaires de 2020 ont montré quand même une très bonne stabilité du Parti Socialiste et des Républicains dans les élections régionales, donc, et les élections municipales, preuve que les Français, les électeurs, semblent faire la part des choses dans leur tête entre des élections nationales et des élections locales. Les élections nationales, ils vont plébisciter des candidats qui plaident pour des ruptures, et aux élections locales, ils vont plébisciter des exécutifs de continuité, parce que les Français ne sont pas pour un changement radical de politique du Conseil régional. La plupart du temps, ils ne savent pas ce que c'est. Quand ils savent ce que c'est, ils s'en foutent un peu. Et quand ils s'en foutent pas, ils disent « Oui, non, je ne suis pas pour un changement radical. Je suis pour des évolutions, mais je ne suis pas pour la radicalité. » Personne ne juge totalement insupportable la politique d'un conseil régional. Voilà. Alors qu'au niveau national, par contre, on peut juger totalement insupportable des trucs. Donc, échec de la fusée Zemmour, le flop Zemmour, tripolarisation du paysage politique, prime à la radicalité au niveau national... la démocratie dans les partis politiques, c'est vraiment pas à la mode. Les Français ne plébiscitent pas les partis politiques démocratiques, s'en foutent. Les quatre candidats arrivés en tête de l'élection présidentielle sont des candidats qui sont à la tête de partis qui ne sont pas connus pour leur démocratie interne. Et ça, visiblement, les Français s'en branlent, donc c'est intéressant. C'est plus un argument de vente. Et puis non, quand même, la NUPES, parlons de la gauche. Parlons de la gauche deux minutes quand même. Elle a vécu une année rigolote, la gauche, quand même. Hein. En janvier-février, c'était à couteau tiré entre Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel qui se tiraient dans les pattes, etc. C'était insupportable. Et l'ambiance était délétère au possible. Jean-Luc Mélenchon qui fait la dernière ligne droite de la campagne sur le thème du vote utile, ce que je trouve un peu rigolo, mais whatever. Oui, il y a eu Taubira qui a arrêté, j'ai oublié. Christiane Taubira qui laisse tomber sa candidature. Jean-Luc Mélenchon qui finit sa campagne en mode voter utile, la gauche. Voter pour le seul candidat qui a des chances de gagner à gauche. Ce qui est un peu rigolo, mais bon, ça fonctionne. Donc, on n'est plus une contradiction près à la France Insoumise. Donc, tant mieux pour eux. Hein. Et la preuve, ça a marché, puisqu'ils sont arrivés en troisième position. En revanche, ce n'était pas suffisant pour se qualifier. Donc, l'entre-deux-tours de la présidentielle a été dans une ambiance absolument terrifiante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'entre-deux-tours, mais les électeurs insoumis étaient démoralisés, et on peut le comprendre. Ils étaient démoralisés à vu la hauteur dans laquelle ils avaient placé leurs espoirs dans la qualification au second tour de Jean-Luc Mélenchon. Donc ils étaient complètement démoralisés. Ils accusaient les autres candidats de la gauche et leurs électeurs d'être responsables de la non-qualification de Jean-Luc Mélenchon. Ils étaient un peu divisés pour savoir ce qu'il faut faire au second tour. Bon, finalement, dans la campagne d'entre-deux-tours, y a finalement assez peu d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour qui ont voté Marine Le Pen au second tour. Je crois que c'est 15% au final. C'est 15% au final qui ont fait ce choix-là. Il y avait des engueulades, etc. Ça n'arrêtait pas. Finalement, Jean-Luc Mélenchon a remis de l'ambiance, a remis de l'enjeu dès le lendemain du second tour en disant « Élisez-moi Premier ministre », ce qui a remobilisé ses troupes qui étaient franchement déprimées. Il a réussi à remobiliser les gens. Et surtout, il y a eu la NUPES. La nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, du jour au lendemain, en 6 jours, ça a été réglé, ce truc-là. En 6 jours, ça a été réglé. Tous les partis de la gauche, les principaux partis de la gauche, pardon, se sont mis d'accord pour présenter ensemble, pour faire une alliance électorale pour les élections législatives et présenter ensemble des candidats dans toutes les circonscriptions, sauf quelques exceptions où il y a eu des dissidents, mais la plupart du temps, ça a été un deal au niveau national qui a réglé le problème. Et du jour au lendemain, les socialistes, les écologistes, les communistes et les insoumis sont devenus copains. Ça faisait un an et demi qu'ils s'insultaient matin, midi et soir, et là, oh tiens, on est ensemble. Ça a refilé beaucoup d'espoir aux électeurs de gauche et aux militants de gauche. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça, hein, du côté l'ambiance a changé, c'est fou. J'ai bu des coups récemment avec une responsable d'un parti politique dont je tairai le nom, qui me disait, putain, j'ai retrouvé du plaisir à aller sur la place du marché pour distribuer des tracts. C'est que non seulement les gens étaient contents de nous voir arriver avec nos tracts, genre la NUPES leur donnait envie, quoi, ils étaient contents, Mais en plus, on croisait les autres militants des autres partis à qui on allait serrer la main, on était devenus copains. Genre, on pouvait se dire bonjour et tout, alors qu'avant, ça faisait un an qu'on se regardait du coin de l'œil, ils étaient désagréables, on était désagréables aussi, il y avait une ambiance de merde à gauche. Et voilà, donc la NUPES, pouf, un espèce de petit miracle au milieu de l'année. Ça fait du bien de se retrouver en famille, comme dirait Olivier Faure. La NUPES qui a tenu ses... Alors, la NUPES qui a réussi son pari, mais qui a échoué à sa promesse, on va dire ça comme ça, ou dans l'autre sens, ça marche aussi. La NUPES qui a réussi à ne plus être anecdotique à l'Assemblée nationale pour créer une grosse force politique, la première force politique d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, c'est l'ensemble des groupes de la NUPES. Donc ça, c'est une réussite pour la NUPES. La France insoumise qui réussit à imposer son leadership à gauche avec le plus grand nombre de députés à gauche à l'Assemblée. Donc ils sont le premier groupe de gauche à l'Assemblée nationale, c'est le groupe de la France insoumise. Donc ça, les insoumis ont réussi ça, alors que je vous rappelle qu'en 2017, c'était quand même pas mal fait humilier, malgré la quatrième position... plus qu'honorable de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Il se retrouve avec 17 pauvres députés à l'Assemblée. Pas de quoi peser. Jean-Luc Mélenchon se retrouve à la tête du premier groupe d'opposition, donc il est content. Enfin, du deuxième derrière le Rassemblement National, mais quand même. Donc il est content. Ceci étant, il avait dit aux électeurs « Votez pour moi, élisez-moi Premier ministre ». Bon, ça a complètement échoué. Hein. Ça, on est très très loin du compte. Bon, certes. Donc ils n'ont pas réussi. La NUPES n'a pas réussi à imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, mais ils ont quand même largement sauvé l'honneur. Il y a aussi le problème de la répartition des candidatures à la députation. Ça n'a pas été simple. Hein. Je sais pas que c'est simple. Mélenchon m'a définitivement dégoûté de la politique. Oh bah, Mélenchon, il n'est pas au pouvoir en même temps, donc j'ai envie de dire, je vois pas comment il peut te dégoûter de grand chose. Hein. Mélenchon, il est opposant, donc à part faire des promesses, il fait pas grand-chose. Hein. Il dirige pas un ministère, il est responsable de rien, il n'est même plus député. Donc, et Quatennens, on en parle. Bah justement, on y vient. Justement, on y vient. Parce que donc dans tout ça, la NUPES, qu'est-ce qui lui arrive à la NUPES? Chaque parti membre de la NUPES doit se réorganiser. Je vous avais déjà expliqué qu'il y a une rythmique dans la vie politique naturelle et habituelle qui veut qu'après une élection présidentielle, une fois que les partis ont échoué, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul vainqueur à la présidentielle, tous les autres par définition ont échoué, il y a souvent des réorganisations politiques. Donc chacun des partis fait des congrès, s'organise, etc. pour réfléchir à son avenir. Les écolos ont fait leur congrès et c'est Marine Tondelier qui l'a remporté, qui est la nouvelle secrétaire nationale. Les Républicains ont fait leur congrès et c'est Éric Ciotti qui a remporté la présidence. Les communistes, ça va arriver en février, enfin en début d'année. Les socialistes aussi, en avril, je crois. Et les insoumis, de leur côté, bah moi je pense que les insoumis sont dans une crise de croissance en fait. Les insoumis sont dans une crise de croissance parce que la France insoumise, c'est un parti politique qui a été fondé, qui a été porté comme un mouvement autour de Jean-Luc Mélenchon au cours des 10 dernières années. Ça a été une formidable machine à faire campagne. Ils ont très très bien réussi à faire des très belles campagnes, notamment présidentielles en 2017 et en 2022. La preuve, les scores qu'a engrangé Jean-Luc Mélenchon à ces deux élections sont quand même assez extraordinaires. Le problème, c'est que le fonctionnement du mouvement comme d'un mouvement fait pour faire campagne ne lui permet pas de continuer à fonctionner maintenant qu'il a une place de leadership à gauche, où il aurait besoin justement de trouver un modus operandi qui lui permette de traiter ses divergences internes, y compris ses divergences d'ordre stratégique, d'organiser la succession à Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a un enjeu autour de la France insoumise, il y a un enjeu autour de son organisation interne, et tout ça s'est cristallisé autour de l'affaire Quatennens. Dans la contestation, l'affaire Quatennens, into la réorganisation politique du mouvement qui crée des polémiques parmi les militants de la France insoumise qui ne s'y retrouvent plus parce que les militants de la France insoumise, en tout cas beaucoup d'entre eux, je ne me permettrai pas de parler en leur nom à tous, hein, de ce que je lis et de ce que je vois, il y a beaucoup de militants insoumis, de sympathisants même qui souhaiteraient que la France insoumise se dirige vers un fonctionnement plus démocratique, que les insoumis soient associés directement au choix du leadership, de la ligne politique, de la stratégie Ruffin, la stratégie Corbière, la stratégie... comment s'organiser, est-ce qu'il faut qu'on vote, est-ce qu'il faut qu'on débatte, si oui, comment, etc. Et là, malheureusement, pour lui, Jean-Luc Mélenchon semble, lui qui pourtant semblait être vraiment au diapason d'une partie de la gauche depuis 10 ans, je le trouve à contre-tempo. Là, il est en contre-performance actuellement. Il donne l'image. Il donne l'image de quelqu'un qui n'arrive pas à être au diapason de son propre mouvement politique, quoi. Un fonctionnement comme au PCF, ce serait une bonne idée. Je le trouve vraiment bon, leur système. Bah oui, enfin, c'est un fonctionnement démocratique à l'ancienne. Hein. Le Parti communiste, c'est un parti démocratique à la papa. Enfin, il n'a pas toujours été, hein. Mais ça va de mieux en mieux. On débat, on vote, on élit des représentants qui débattent et qui votent, etc. Merci Jack Place PZ. Merci beaucoup pour ton raid. Bonjour à toi, bienvenue. Je m'appelle Jean Massier. On est en train de faire le bilan politique de l'année 2022. Quels sont les faits marquants de cette année politique? Quelles sont les analyses qu'on peut en tirer? Et à quoi peut-on s'attendre pour 2023? Bonjour à vous et merci pour ton raid encore une fois, Jack. Apparemment, la démocratie ne conduit pas à un vote massif des Françaises et des Français. Eh ouais, mais c'est tout le paradoxe. Les Français semblent bouder les partis politiques au fonctionnement démocratique et lui préférer les candidats à fort capital médiatique qui ont derrière eux des mouvements qui les soutiennent fort, quitte à ne pas être démocratique. La LFI peut-elle se relever? J'en sais rien. Est-ce que le PS pourra se relever du score d'Hidalgo? Alors, c'est ce que je vous avais déjà expliqué. Il ne faut pas faire l'erreur de juger la santé politique d'un parti politique à son seul score à l'élection présidentielle. Ok? On ne peut pas juger de la bonne santé d'un parti juste parce qu'il a fait un bon score à la présidentielle, de la même manière qu'on ne peut pas juger de la mauvaise santé d'un parti juste parce qu'il a fait un mauvais score à l'élection présidentielle. C'est plus compliqué que ça. Les partis politiques ont des objectifs différents, ils ont des stratégies différentes, ils ont des tactiques différentes, ils ont des volontés différentes, et les partis n'ont pas tous la même boussole et les mêmes mesures de performance. Le Parti Socialiste est un parti qui fonctionne très bien localement dans les grandes villes et dans les régions et dans les départements. Le Parti Socialiste a un groupe au Parlement européen, le Parti Socialiste a un groupe à l'Assemblée nationale, a un groupe au Sénat. Le Parti Socialiste a son histoire, a ses bastions. Il est moins puissant nationalement que ce qu'il a été par le passé, c'est vrai, mais il n'est pas pour autant complètement à la ramasse. Pareil pour les Républicains. De la même manière que Philippe Poutou, quand je l'avais interviewé sur le plateau de Baxi, Philippe Poutou nous avait bien expliqué que le NPA ne juge pas sa santé à son score au présidentiel, à la présidentielle. Le NPA a toujours dit, non mais nous, le score à la présidentielle, c'est pas un objectif en soi. Nous, on est pour la lutte, dans la rue, dans les entreprises et tout. Donc, pour nous, l'élection, c'est un objectif parmi d'autres, mais la révolution, ça passe pas par les élections. Donc, nous, on est dans une stratégie de lutte globale et tout. Donc, nous, qu'on fasse 2%, 4%, 5%, on n'en tire pas une fierté. Voilà. Donc, c'est un exemple que je vous donne, le NPA, pour vous montrer que tous les partis ne jugent pas de la même manière. Bon, le NPA, c'est pas le bon exemple. Oui, effectivement, parce que là, ils sont très divisés, mais voilà. Donc, vu que le LR et le PS restent très installés localement, est-ce que c'est le retour de l'ancien monde après 2027? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va avoir un retour à l'ancien monde, parce que le retour à l'ancien monde, donc, c'est le vieux bipartisme à la papa, où t'as un gros parti à gauche, un gros parti à droite, et qui alterne le pouvoir entre les deux à chaque élection, en gros. Je caricature, mais c'est un peu l'idée. Est-ce qu'on va retourner vers un bipartisme comme ça? Je pense pas, parce que si on a quitté ce vieux monde, c'est aussi parce que les Français ont voulu quitter ce vieux monde. Faut pas oublier pourquoi il est mort, ce vieux monde, électoralement, au niveau national. Les Français rejettent ces vieux partis à la papa, cette alternance entre toujours les mêmes, etc. Donc, voilà. Si le NPA fait un jour plus de 5%, ce sera quand même signifiant. Oui, ça signifiera pas rien, je suis d'accord. Bah, c'est en 2002, Olivier Besancenot a fait plus de 5%. C'est pour ça qu'il... Enfin, oui, il y avait une bonne santé de la LCR qui ont fini par créer le NPA après 2007, quoi. Macron connaît-il un moment de grâce? Non, tu veux parler de l'état de grâce, ça n'existe même plus. Donc non, Il n'y a pas d'état de grâce Macron. Il n'y a jamais d'état de grâce après une réélection. Hein. La LCR. Non, l'ancêtre du NPA, c'était la LCR. C'était l'ancien nom du parti. C'était la Ligue communiste révolutionnaire. Macron a bien aidé à tuer ce vieux monde. Sans lui, pas sûr que les partis historiques aient sombré au plan national. Macron, il a su saisir un moment politique, un moment de dépassement, et c'est ce qu'il a promis en 2017, ce qu'il a appelé le dépassement lui-même. C'est le nom qu'il a donné à cette stratégie du dépassement des clivages gauche-droite en disant « Je vais bosser avec tout le monde, des gens venus de la gauche, venus de la droite, moi je regarde pas d'où vous venez, ce qui m'intéresse c'est ce qu'on fait ensemble, etc. 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 » Ça a plu à beaucoup de gens. La preuve, il a été élu président de la République. Mais Macron, il n'est pas sorti des ronces. Hein. Je vous rappelle toujours qu'une présidentielle, c'est pas une fin en soi. Une victoire à une présidentielle, c'est pas la fin de la course, c'est le début. Emmanuel Macron, il est aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, empêtré dans une majorité relative et dans une morosité ambiante. Il a perdu de son leadership et de son dynamisme qu'il avait gagné en 2017. En fait, le macronisme fait plus trop recette dans l'imaginaire collectif. Et par ailleurs, il y a aussi une crise de leadership et de succession, surtout, pour savoir qui va se présenter contre lui. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je commence à regarder l'élection de 2027 avec envie, parce que je me dis qu'enfin, on va avoir des nouveaux visages. Rappelez-vous ce qu'on avait dit en 2022 sur cette très bonne chaîne, abonnez-vous, faites un don à Baxit, merci beaucoup. On avait dit, cette présidentielle en 2022, c'est franchement pas la foire au renouvellement. C'est-à-dire que les visages des candidats est franchement pas nouveau. Macron, déjà président, candidat à nouveau. Marine Le Pen, on la connaît déjà, était déjà candidate. Jean-Luc Mélenchon, on le connaît déjà, était déjà candidat. Anne Hidalgo, c'est pas une nouveauté non plus à gauche. Hein, c'est une personnalité nationale connue, maire de Paris, c'est quand même pas rien. Comment elle s'appelle Valérie Pécresse, pareil, pas révolutionnaire. Hein, Valérie Pécresse, ancienne ministre, présidente de région, bon... Yannick Jadot, déjà candidat à la primaire en 2017, en 2012, pardon. En 2017, pardon. Donc, bon, voilà, il n'y avait que Zemmour, en fait. Même Philippe Poutou, on connaît déjà. Nathalie Arthaud, on connaît déjà. Bon, bref, c'était un peu chiant, cette élection, juste en termes de casting. Mais là, 2027, Macron ne pourra pas être candidat. Mélenchon sera a priori pas candidat. Pécresse, il y a peu de chance. Hidalgo, il y a peu de chance. Yannick Jadot, j'en sais rien. Marine Le Pen, point d'interrogation. Donc, on va peut-être enfin avoir des nouveaux visages. Ce sera cool. Je reçois des milliers d'appels de ma femme de ma région. C'est fou, une primaire de la chaîne Jean Massier augmente mon charisme. T'as vu, c'est fou, hein? T'as vu, Nolan? Quand on s'abonne à cette chaîne, on gagne en charisme. Merci, Nolan, pour ton resub. Penses-tu que le PS peut renaître? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le PS n'est pas mort, ça marche pas comme ça. Est-ce qu'il peut redevenir ce qu'il a été à l'époque du consensus et du congrès d'Épinay? Non, parce qu'on a changé de monde. Est-ce qu'il peut jouer un rôle? Oui. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec les députés de sa circonscription? Oui, n'hésite pas. Par mail, par téléphone, comme tu veux. Donc voilà. Qui succédera à Macron? Ah, bonne question. Qui succédera à Macron? Pour l'instant, les candidats à la candidature non déclarés mais pressentis sont Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Édouard Philippe, ancien Premier ministre et maire du Havre, Gérald Darmanin, maire de Tourcoing et ministre de l'Intérieur. Est-ce que tu risquerais un pronostic sur le gagnant du congrès du PS? Oui, pour moi, ce sera Olivier Faure. On verra, mais je pense que les électeurs, les sympathisants, les adhérents PS sont à l'aise dans la NUPES plus que dans la non-stratégie des Hollandais. David Linard, on verra. Je ne sais pas. Il y a moyen de voir. Non, mais David Linard peut créer la surprise. Il y a beaucoup de gens qui peuvent créer la surprise, hein. En tant qu'expat au Québec, je confesse avoir du mal à suivre ce qui divise la NUPES en ce moment. Outre-Atlantique, ça semble être des débats florentins. Je suppose que non. Alors, Ça dépend ce que tu appelles la NUPES. La NUPES n'est pas divisée, puisque la NUPES n'est pas un parti unique. La NUPES est une coalition électorale de différents partis politiques. Chaque parti a sa propre vie interne, chaque parti va bien. Chaque parti a son groupe à l'Assemblée nationale, chaque parti vit sa vie. Il y a un des groupes de la NUPES et un des partis qui s'appelle la France Insoumise qui en ce moment a une crise interne de fonctionnement. Mais la NUPES n'est pas divisée. La NUPES, c'est pas parce que la France Insoumise va pas très bien en interne qu'il y a des désaccords flagrants avec leurs camarades et amis du PC, du PS, des écolos. À l'Assemblée, ils s'entendent bien, ça marche très bien. Ils votent de la même manière globalement, sauf sur certains points et tout. Mais non, 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 la NUPES va bien. C'est LFI qui va pas très bien. Mais elle va pas très bien en interne, vis-à-vis de ses camarades. Bon, bah. Un prono pour le congrès du PCF. Ah, je pense que Roussel va rester secrétaire, premier secrétaire du Parti communiste. Sa stratégie était la stratégie que voulait le précédent congrès qu'il a choisi déjà. Fabien Roussel a été élu à la tête du Parti communiste en rupture avec la stratégie de son prédécesseur, Laurent. Merde, j'ai oublié son prénom. Merde. Qui était favorable à une alliance avec la France Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon. Et Fabien Roussel a réussi à le battre aux élections internes en proposant une... Pierre Laurent, merci Pierre Laurent. Et Fabien Roussel a battu Pierre Laurent en proposant une stratégie d'autonomisation du Parti communiste avec une candidature unique, une candidature 100% communiste à l'élection. Il n'y a pas Yann Brossat qui se présente au congrès PC. Bah, Yann Brossat, il est dans la ligne Roussel, donc... Quel est l'état de santé d'Europe Écologie Les Verts ? Ça dépend. Encore une fois, ça dépend sur quels critères. En fait, on va le dire autrement. La politique, c'est comme le cricket. Vous savez que le cricket, c'est un sport un peu particulier, où au lieu d'avoir un seul score... comme au foot, au basket, etc., où on marque des points. Ben en fait, au cricket, on a un tableau des points. Et on marque des points dans différentes catégories au fur et à mesure du match. Je ne m'attendais pas à cette métaphore. J'essaie de le faire clair, mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le cricket, donc ce n'est pas la bonne manière non plus de... Personne ne comprend rien au cricket, c'est le principe de ce sport. Un parti n'a pas un curseur bonne santé, mauvaise santé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Un parti a un nuancier dans différents critères. Il peut être en bonne santé, en mauvaise santé. Ça dépend, ça peut évoluer, ça peut bouger, ça peut correspondre à sa stratégie ou pas. Voilà. Comment va Europe Écologie Les Verts ? Ils n'ont pas beaucoup d'adhérents, mais leur stratégie d'alliance a fonctionné au niveau local puisqu'ils participent à des exécutifs au niveau municipal, au niveau régional et au niveau départemental. Au niveau national, ils se sont rassemblés derrière Marine Tondelier qui a réussi à largement remporter l'élection en interne qui fait qu'elle est une secrétaire nationale du parti légitimée et bien légitimée. Donc il y a un côté cohésion du parti qui fait plaisir par rapport à ce qu'on voit chez les camarades insoumis. Donc LV va plutôt bien. Voilà, ils ont fait un score décevant à l'élection présidentielle, donc c'est pas top. Enfin voilà, il y a des trucs qui vont bien, des trucs qui vont moins bien. C'est la vie d'un parti, quoi, ça avance. C'est comme un bulletin de notes, t'as beau être nul en maths, t'as quand même la moyenne. Oui, voilà, on peut dire ça, t'as raison. Est-ce que le PCF est un parti de gauche en 2022 ? Ça dépend de toi, ça dépend pas du PCF, hein, ça dépend de toi. Y a quand même une moyenne à la fin, donc un meilleur et un moins bon. Bah moi, ce que je vous explique, c'est que chaque parti fait sa propre moyenne en fonction de sa stratégie et de ses objectifs. Il paraît que Macron peut se représenter en 2027 grâce à une faille juridique pourtant article 6.
Non.
C'est un mythe, ce truc-là.
Et Ruffin dans tout ça, Ruffin a sorti un bouquin à la rentrée proposant une évolution stratégique de la doctrine de la France insoumise en vue d'aller conquérir un électorat dans les zones rurales et les anciens bassins industriels. Voilà. Pour l'instant, François Ruffin, il fait son bonhomme de chemin. Il propose une évolution. J'ai pas l'impression qu'il soit rentré en conflit ouvert et direct avec Jean-Luc Mélenchon. Peut-être qu'il en a pas envie lui-même. Pas sûr qu'il y ait intérêt non plus.
Et les fascistes qui sont de plus en plus en confiance, que penses-tu des alliances entre les groupes d'extrême droite en Europe? Partout en Europe, on voit l'extrême droite gagner des points. L'extrême droite est en bonne santé politique, en tout cas électorale, partout en Europe. L'extrême droite est arrivée au pouvoir grâce à une coalition en Italie. L'extrême droite est déjà au pouvoir en Autriche. L'extrême droite a remporté des élections locales en Allemagne. Bundestag aussi, si je ne dis pas de bêtises. Au Royaume-Uni, elle se porte pas très bien avec le Brexit qui se passe pas super bien. En France, Marine Le Pen a cartonné aux élections législatives, même si elle a échoué une troisième fois à l'élection présidentielle. En Suède, ils sont au gouvernement aussi. Après, c'est à nuancer car après, entre partis d'extrême droite, ils sont pas tous sur la même ligne. Oui, non, c'est l'extrême droite des uns n'est pas l'extrême droite des autres, ça c'est vrai, mais il y a quand même une bonne santé de l'extrême droite en Europe. Et ça se voit, et ça se voit même dans le débat public, dans le débat politique. Aujourd'hui, les propos, les idées et la pensée d'extrême droite a jamais été aussi mainstream. Tous les jours en direct sur CNews, sur Sud Radio, pour ne parler que de ces deux médias-là. Ils sont invités sur tous les plateaux télé, l'air de rien. Voilà, l'extrême droite, aujourd'hui, elle est dans le paysage, elle est bien installée, elle va bien. Comme dirait Sarah Elhéry, l'extrême droite n'est pas en danger. Le vrai danger, c'est la gauche. Hein. Tu vois ? Donc il y a plein de gens pour qui le wokisme est bien plus dangereux que le racisme. C'est bon, voilà. Donc l'extrême droite va très bien, elle vous embrasse. Tout comme l'extrême gauche. T'as vu l'extrême gauche gagner des élections récemment en Europe, toi ? Vous me prévenez, hein, si vous voyez l'extrême gauche gagner des élections un jour. Donc voilà. Donc ça va pas s'arrêter. Tu penses quoi de la situation politique dans la région sud? Il n'y a pas de région sud en France. Il y a une région Occitanie, il y a une région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Macron, c'est l'extrême gauche islamiste, je l'ai vu sur le compte Patriote en colère sur Twitter. PACA est devenu région sud. C'est pas vrai ça. Ah putain, c'est vrai. J'avais oublié. Ils ont rename. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, pardon. Excuse-moi pour ma réponse méprisante. Je suis désolé pour ma réponse méprisante. Je suis en mode, mais il est con, quoi, il n'y a pas de région sud en France. Attends, je vais lui donner une bonne leçon de géographie, ça lui apprendra. Putain, merde. C'est vrai, ils ont rename. C'est plus Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est sud. Oh, le noob. Ça lui fait le cas. c'est vrai, j'avais complètement zappé. Faut dire que je m'en battais les couilles. Et que ça va pas changer. C'est vrai, ils ont rename. Ah ouais, France sur 20. Tout ça ne nous rendra pas la Cochinchine. Hein? Et l'Indochine. Ça s'appelle comment maintenant l'Indochine? Ouais, ouais, c'est vrai, région sud. Et ben, je sais pas, tu veux que je te fasse une disserte sur la région sud? Renaud Muselier qui quitte les Républicains, qui se rapproche de Macron. Non, je sais pas quoi te dire. Le Tonkin, le Tonkin. Où en est-on? Le Tonkin en Extrême-Orient. Bref. Bilan politique de l'année 2022, on peut aussi parler de la guerre en Ukraine. Mine de rien, la guerre en Ukraine, qui a, on peut le dire quand même, un peu pris par surprise l'Europe. Il y avait une guerre depuis longtemps dans le Donbass, c'était le bordel avec les groupes autonomistes soutenus, indépendantistes soutenus en sous-main par Moscou, on le savait, mais bref. C'était un peu larvé, etc. Mais voilà, en 2022, on a Vladimir Poutine qui décide d'envahir militairement son voisin. Une bonne vieille guerre, bien 20e siècle. Avec accusation de néonazisme des élites politiques ukrainiennes. Conquête territoriale à la papa, char d'assaut. Ah non, non, vraiment, vraiment 20e siècle. Ce qui a du coup des conséquences en chaîne, hein. Conséquences en chaîne, le retour sur le devant de la scène de l'OTAN, qui pourtant a été jugé en état de mort cérébrale il y a encore pas très longtemps, par Emmanuel Macron lui-même, à cause de Trump. Donc l'OTAN qui va très bien avec des nouveaux pays qui adhèrent. La guerre menée par la Russie qui semble quand même ne pas remplir les objectifs fixés par Vladimir Poutine, c'est une manière joliment euphémiste de dire que ça se passe très mal sur le terrain pour Vladimir Poutine. La résistance héroïque des Ukrainiens, je suis abasourdi d'admiration et de trouille pour les Ukrainiens, pour leur résistance héroïque. C'est une leçon de courage, d'esprit de défense, de liberté, etc., de démocratie. Extrêmement bluffant. Extrêmement bluffant, le courage des Ukrainiens. Et je ne parle pas forcément des élites politiques ukrainiennes. Zelensky sera probablement l'homme de l'année 2022, le visage de la résistance à la Russie. Mais monsieur et madame tout le monde en Ukraine, quoi. C'est quand même d'un héroïsme fou. Et c'est cet héroïsme qui a permis de renverser le cours de la guerre, de donner confiance aux partenaires européens et américains pour livrer des armes. Voilà quoi. Time l'a déjà nommé personnalité de l'année. Ah ouais, je savais pas et ça m'étonne pas, tu vois. Les Ukrainiens sans les armes des USA, ils auraient pas fait 20 jours. Bah ils ont fait plus de 20 jours, hein, avant les armes des USA. Selon moi, les femmes iraniennes sont bien plus courageuses. Ouais, enfin bon, c'est pas une compétition non plus. Donc oui, les femmes iraniennes aussi, je suis d'accord avec toi, sont d'un courage extraordinaire. Donc non, quand on est démocrate dans ce monde, on a quand même des lueurs d'espoir. Enfin, on a des gens qui, en tout cas, donnent envie de se battre. Les Ukrainiens, les femmes iraniennes, les femmes afghanes aussi, depuis quelques semaines. Enfin, depuis quelques semaines, tu me diras, les pauvres. Les jeunes hongkongais aussi en 2021. Voilà, il y a des gens qui donnent de l'espoir, quoi. De dire que ça vaut le coup de se battre pour la démocratie, pour un certain nombre d'idéaux. Bolsonaro aussi, il a été outed. Ouais, alors le Brésil est divisé plus que jamais. Ce qui était intéressant d'ailleurs avec le décès de Pelé hier soir, ou avant-hier soir plutôt, le décès de Pelé a rappelé à quel point le Brésil est divisé, quoi. Pourras-tu parler un jour de ton passage à l'ENS? Si tu veux, ouais, un jour. Tu es ému? Non, je suis pas ému. Enfin, si, bien sûr, c'est émouvant, parce que, enfin, je suis ému. C'est oui, je suis très impressionné par les militants enfin par les jeunes Iraniens, par les jeunes Ukrainiens, par les jeunes Afghans, par les jeunes Hongkongais, mais je suis aussi mort de trouille en fait. J'ai pas compris le lien avec le décès de Pelé. Non, pardon, excusez-moi. Pelé était un footballeur qui faisait l'unanimité en Brésil. Voilà. Les Brésiliens aiment Pelé. C'est comme ça, c'est Pelé, c'est pas n'importe qui, c'est Pelé, c'est une star, c'est une gloire nationale. Et la mort de Pelé, j'ai entendu plusieurs analystes dire bah, la mort de Pelé est peut-être le dernier événement qui rassemble un peu les Brésiliens autour d'un truc commun, tellement les Brésiliens sont divisés sur plein d'autres sujets. C'est un pays très divisé, le Brésil. Et voilà, le décès de Pelé aura, par le deuil, au moins rassemblé quelques jours le peuple brésilien. Voilà, c'est tout. Il y a eu la mort d'Elisabeth II, oui, il y a eu la mort d'Elisabeth II en 2022, c'est vrai. Politiquement, pas grand-chose à en dire. Ce qu'il y a de politique au Royaume-Uni est plus allié du côté de Downing Street, pardon, et de Westminster d'ailleurs. Donc, tu vois, pour moi, le phénomène politique, c'est pas tant la mort de la reine, paix à son âme, que le fait que Boris Johnson se soit fait dégager, que Liz Truss n'ait pas tenu un mois avec son mini-budget tout pété. Enfin voilà, le phénomène politique, à mon avis, plus à regarder de ce côté-là, quoi. Les midterms au Royaume-Uni, ouais. L'indépendance écossaise, bah, on verra en 2023. Hein. Pour l'instant, l'indépendance écossaise, c'est pas sur le, c'est pas l'ordre du jour. Hein. Est-ce que tu as parlé de l'affaire sur le Parlement européen de la corruption? Oui, on en a parlé au moment où c'est sorti, bien sûr. Le fait que Biden est mou, est-ce que c'est un fait politique? Bah, il est mou, c'est ton point de vue. Électoralement, il s'en est quand même vachement bien tiré pour les midterms, hein. C'est les Républicains qui avaient un boulevard pour remporter les midterms, qui ne les ont pas remportés. Si tu veux, la mollesse, elle est plutôt allée à chercher du côté des Républicains qui sont empêtrés dans le post-Trumpisme dont ils savent pas trop quoi faire. La toute-puissance des réseaux Trump au sein du parti des Républicains semble bah, ne plus rencontrer les électeurs. La Coupe du Monde, c'était un fait intéressant politiquement, finalement. Ouais, la Coupe du Monde de foot. Alors attention, est-ce que c'était un fait intéressant politiquement ou est-ce que c'est parce que l'équipe de France s'est retrouvée en finale qu'on en a fait des caisses? Je sais pas. Je sais pas quelle leçon politique on tire de la Coupe du Monde. Comme leçon nouvelle, je veux dire, parce qu'on en a quand même dit beaucoup de cette Coupe du Monde depuis des années. Sur les pétromonarchies. Sur la stratégie du Qatar, sur les instances internationales du foot qui puent la corruption, la participation de la France à tout ce merdier. Bon. Ouais, l'absence de boycott. Alors, ça, c'est vrai que l'absence de boycott, beaucoup de Français ont parlé de boycott, et finalement, le soir de la finale, il y avait 20 millions de téléspectateurs pour regarder l'équipe de France jouer. Intéressant. Finalement. Peut-on reprocher à Macron de s'être rendu au Qatar quand on était nous-mêmes tous devant la télé? Est-ce qu'on ne peut pas regarder un petit peu nos pompes en disant que bon. Pour le Qatar, on s'est plus couché devant le pétrole que devant le pognon. Oui. Moi, j'ai boycotté, mais j'en ai rien à carrer du foot. Ouais, bon, du coup, ça va, c'était pas un boycott trop difficile. Ok, Jean Moulin. Super, ça avait l'air. Pouf. Donc, bon, oui, donc le Qatar, la question du boycott, c'est à garder en mémoire la prochaine fois qu'on parlera de boycott, sachant qu'on a les Jeux Olympiques qui arrivent à Paris en 2024, donc c'est pas pour l'année prochaine, mais celle d'après. Le regroupement des peuples arabes derrière le Maroc, même si les pays arabes sont pas en bonne entente. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, je sais pas, la Coupe du Monde de foot, oui, effectivement. La guerre en Ukraine. Pif, paf, pouf. Bon, et si on parle de 2023, à quoi peut-on s'attendre en 2023 ? Sur la scène internationale, le conflit ukrainien, l'année 2023 sera-t-elle l'année d'une solution au conflit ukrainien ? Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. La guerre à Taïwan, je suis d'accord avec vous. La Chine va-t-elle envahir militairement Taïwan au cours de l'année 2023 ? Le Covid en Chine, effectivement. Le Covid en Chine qui a explosé depuis que le gouvernement chinois a fait sauter les restrictions. La récession et la colère sociale 100%. Alors en France, réforme des retraites, ça va arriver très vite, là, dès le début du mois de janvier. Réforme des retraites, ça va être la réforme majeure, ça va être la réforme test pour le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Va-t-on avoir un retour à un conflit social dur et durable ? Je ne sais pas. Donc la question de la vie politique interne en France est importante. Le retour de l'émission Backseat sur la chaîne Twitch de Jean Massier, ça va être un moment politico-médiatique extrêmement important, très très attendu. Plusieurs milliers de personnes ont d'ores et déjà participé au financement participatif de cette belle émission pour suivre l'actualité politique. Il suffit simplement de taper point d'exclamation Backseat dans le chat de la chaîne Twitch de Jean Massier, de cliquer sur le lien et de se munir de sa meilleure carte bleue pour participer à ce financement participatif qui permet de donner naissance à une formidable émission hebdomadaire en plateau et en public. Émission de 3 heures d'actualité politique avec des chroniques, avec de l'humour, des jeux, des invités de premier plan. C'était incroyable, incroyable. Merci Rally 50. Élection en Turquie, ouais. Les élections sénatoriales, oui. Les élections sénatoriales, on verra bien. Les élections sénatoriales. Israël et Netanyahou, ouais, bah, le gouvernement de Netanyahou toujours plus à droite que la droite. Ça va pas dans le sens d'une solution pacifique au conflit israélo-palestinien, ça. La primaire LR, non. Il n'y aura pas de primaire LR, de quoi tu parles? Il n'y aura plus jamais de primaire chez LR, ils l'ont dit. Elon Musk va-t-il enfin lâcher Twitter? Va-t-il finalement tuer Twitter en 2023? Est-ce que 2023 sera la dernière année de Twitter? Et si oui, on ira où? Où est-ce qu'on ira quand on n'aura plus Twitter? Dehors. Copain d'avant. Google Doc. Bar PMU. Reddit. TikTok. Mastodon. MySpace. MSN. Hive. Bon, c'est pas ça. On a fait toutes les blagues. Donc, tweet. Donc, Musk. Ok. En France, donc, je le disais. La France Insoumise va-t-elle trouver une solution pour se tirer de son pétrin et de sa crise interne en 2023? 2023 sera-t-elle l'année de la démocratisation de la France Insoumise? On verra. On verra. Ou alors, à l'inverse, la France Insoumise va-t-elle éclater? Un nouvel acteur à gauche va-t-il émerger? Je ne sais pas. Fabien Roussel va-t-il rempiler au Parti communiste? Olivier Faure va-t-il rempiler la tête du Parti socialiste? Emmanuel Macron va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale? Le Rassemblement national va-t-il être rattrapé par ses dettes? Éric Zemmour va-t-il réussir à réengager une dynamique pour son parti malgré son flop en 2022? Ciotti va-t-il tuer les Républicains? Non, mais c'est une bonne question. J'ai hâte de voir les prochains moves d'Éric Ciotti. Est-ce que les Républicains vont apporter leur appui à la réforme des retraites? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Combien y aura-t-il de NPA? Ouais. Un autre acteur à droite pour remplacer Zemmour trop clivant? Je ne sais pas. Ouais, peut-être. En même temps, l'année 2023 va être une année de pause, puisque la seule élection qu'on aura en 2023, c'est les élections sénatoriales. Donc les partis politiques, là, ils ont enfin une année tranquille sans élection. Après, en 2024, on aura les Jeux Olympiques, mais on aura surtout les européennes. 2025, on aura les municipales. 2026, les régionales. 2027, la présidentielle et les législatives. C'est ça, le calendrier? Je sais plus. Sauf dissolution. Ah, s'il y a dissolution, on s'amuse. S'il y a dissolution, c'est reparti pour un tour. 2026, les municipales. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir une NUPES de droite? C'est pas exactement en ces termes-là que se pose la question, mais la stratégie du Rassemblement national sera-t-elle d'aller faire alliance avec ce qui reste des Républicains? J'y crois pas trop. Ça implique quoi exactement une dissolution? Une dissolution, c'est très simple, c'est juste l'organisation de nouvelles élections législatives, c'est tout. Voilà. Dissolution, ça veut dire que tous les députés actuels perdent leur mandat. Et on revote pour des députés. Ça dure 3 semaines en général, c'est très rapide, hein. Une dissolution, ça va très vite, hein. C'est quoi le délai? Je sais plus. C'est 4 semaines, je crois. Je sais plus exactement. Donc risqué pour la NUPES. Bah, je sais pas pourquoi est-ce que la NUPES aurait-elle intérêt à renégocier sa répartition des législatives, peut-être en fonction de ce qu'ils ont gagné ou perdu, ou de là où ils ont le plus de chances de gagner ou de perdre des élections, pour gagner encore plus de circonscriptions. Je sais pas, c'est une bonne question. La légalisation du cannabis. Je vois pas ce qui te fait dire que le cannabis a une chance d'être légalisé. Si tu attends ça pour 2023, je t'invite à lower your expectation, ça n'arrivera pas. Je suis désolé. Hein. Voilà, y a pas absolument aucun consensus politique aujourd'hui pour légaliser le cannabis. Aucun. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour ça, donc voilà. Une inflation au-dessus de 15%, ouais. Istoni va-t-il finir sa série sur le début du 19e siècle? À quoi on peut s'attendre d'autre en 2023? La 2023 sera l'année de... 2023 sera l'année de ton abonnement à la chaîne Twitch de Jean Massier. Ça, c'est écrit dans les livres de Nostradamus. C'est écrit, hein. C'est prévu. Avec mes remerciements par avance, d'ailleurs. Tu peux utiliser Amazon Prime, d'ailleurs, hein, pour t'abonner. Tu peux faire payer, tu peux faire racker Jeff Bezos. C'est lui qui paye si tu t'abonnes avec Prime. Toi, tu payes pas plus. C'est lui qui paye, qui me paye. Donc vas-y, fonce. Le The Event 2023, retour du The Event, sous quelle forme, comment? Tout de suite, nous accueillons notre envoyé spécial en direct de Montpellier, devant le manoir ZRT, le Z Manoir. Le Bitcoin à 100 000 euros. Merci, Crince TV. Le Bitcoin est à 100 000 euros. Ouais, ouais, ouais. Les NFT, là, les singes qui tirent la tronche, vont-ils valoir de l'or en 2023? Qui Greta va-t-elle renvoyer en taule? Non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas à quoi on peut s'attendre pour l'année 2023. En tout cas, je vous la souhaite bien bonne. Je vous la souhaite bien bonne, hein. Ah, j'espère que vous allez vous amuser, eh. Non, en vrai, merci à toutes et à tous pour cette belle année 2022. Je suis très heureux. Je sais que ma chaîne a été découverte par beaucoup de gens au cours de l'année 2022 parce que c'était une année où il y a eu une élection présidentielle, donc ça vous a intéressé la politique et donc machin. Parce que c'est une année où beaucoup de gens sont arrivés sur Twitch dans le contexte du Covid et tout, donc il y a plein de gens qui ont découvert ma chaîne. C'était une année où il y avait les législatives aussi, donc il y avait plein de gens qui voulaient savoir c'est quoi la NUPES, qu'est-ce que c'est que la NUPES, pourquoi la NUPES, comment la NUPES. C'est une année où il y a eu plein de 49.3, du coup il y a plein de gens qui ont débarqué aussi en mode c'est quoi le 49.3, comment ça marche, je comprends pas, explique-moi! Donc voilà, donc merci à vous, c'était aussi Baxit qui vous a fait découvrir ma chaîne et j'en suis très heureux, merci pour votre soutien à Baxit au cours de la première saison. Si vous ne le savez pas encore, je vous rappelle que Baxit revient pour la saison 2 à partir du mois de janvier prochain et que pour ça, il faut que vous participiez économiquement, financièrement, en participant au financement participatif sur la plateforme Ulule, Utip. On a changé de plateforme par rapport à l'année dernière, c'est plus pratique Utip. Donc vous allez sur Utip, vous tapez Jean Massier, et vous participez au financement de la saison Backseat. Vous avez toutes les informations dessus et toute la réponse à vos questions. Donc merci à vous. Moi, j'ai passé une super année avec vous. Ça m'a fait super plaisir. 2022 a aussi été l'année où j'ai pris 2 mois de vacances. Bon, un peu contraint et forcé parce que sinon, je partais à l'hôpital en burn-out. Donc, mais j'ai quand même pris 2 mois de vacances. Ça m'a coûté très cher en argent, mais c'est la santé d'abord. Donc ça, c'était cool. Ça m'a fait du bien. Après la présidentielle législative, j'avais besoin de couper. Donc je me suis barré. Je me suis cassé, mais c'était très cool. Donc merci à vous. Moi j'ai bien kiffé. J'ai déménagé au cours de l'année 2022. Je me suis enfin offert un double setup de stream trop stylé avec du Flight Simulator. On s'ambiance et tout, c'est trop cool. Je suis trop bien dans ce nouvel appartement. Je suis trop content. Vous avez l'air d'y être bien aussi, donc ça me fait plaisir. Donc voilà. Non, je sais pas. Là, je suis en train de tout mélanger, le perso, le pro. Non, j'en sais rien. 2022, moi c'était une année chouette. Moi j'ai bien aimé. On a bien rigolé. Hein, c'était marrant. Puis on a pris des trucs. Ah oui, je me suis lancé sur TikTok aussi. D'ailleurs, mon dernier TikTok, il cartonne de ouf. C'est mon dernier TikTok, je parle du tabac, de la lutte contre le tabagisme. La politique de lutte contre le tabac. Et alors, va savoir pourquoi, le truc, il cartonne. Je suis à 100 000 vues. J'ai jamais fait un aussi bon score sur un TikTok, je sais pas pourquoi. Et les gens se déchaînent dans les commentaires. Oh. Oh. Les gens dans les commentaires, ils s'allument la gueule et tout. Moi, je m'attendais pas à ce que, je sais pas, politique anti-tabac, politique de prévention, machin. Non, les gens s'engueulent. Ah oui, d'accord, ok. Non, si vous voulez, si vous voulez. Pourtant, j'en ai fait, hein, des TikTok sur LFI, sur les Républicains. Je veux dire, il y a matière à s'engueuler dans mes TikTok. Hein. Le président de l'Assemblée nationale, même Anne Hidalgo, j'ai fait un TikTok sur Hidalgo, sur l'Union européenne, sur le 49.3. Les gens, ils ont décidé de se prendre le chou sur le tabac. Bah, écoute, très bien, très bien. Amusez-vous bien, hein, tant que je fais des stats, let's go. Donc voilà, merci à Pemf pour ses best-of. Je vous rappelle que j'ai une chaîne Twitch, une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez des best-of et des FAQ trop bien rythmés et tout. Donc merci à Pemf, mon monteur avec qui j'ai le plaisir de bosser depuis 2 ans maintenant. Merci aussi à toute l'équipe du Discord. Merci les gens du Discord, merci les modérateurs, les administrateurs du Discord. Merci les modérateurs sur Twitch. Merci à vous, on a bien rigolé cette année. Hein. On a banni des débiles, on a lutté contre le cyberharcèlement et tout. Merci les forces de l'ordre d'avoir été les gardiens de la paix publique dans le chat. Donc ouais, non, merci Pemf pour le montage, merci les modérateurs, merci les administrateurs du Discord, merci la team d'Emi pour les fiches, pour les QAG, ça c'est très cool, merci beaucoup à vous. Toujours un plaisir de voir vos blagues et vos gifs dans mes fiches. Merci à Andrea aussi qui a rejoint mon équipe, qui est salarié du coup depuis... septembre. Merci à tous. À qui j'ai pas dit merci? Non, on a passé une belle année. Hein. C'était chouette. Merci la politique. Merci la marée chaussée des internets. Merci à moi. Mais merci à vous tous. Merci à vous tous d'être passés par là. Merci pour vos blagues dans le chat. Eh, on a bien rigolé. Hein. Merci, merci de partager avec moi un humour un peu naze sur l'actualité politique. Je suis très content. On se comprend. Ça me fait plaisir. Moi, je suis très heureux de vous avoir accompagné cette année, même si c'était qu'une heure ou deux, même si c'était tous les jours, que peu importe l'intensité que vous y mettez. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, merci. C'était cool. Ce soir, réveillons. Mettez-vous bien. Portez-vous bien. Prenez pas le volant. Hein. On est entre nous, tranquille. Commencez pas 2023 avec un accident de la route. Allez-y mollo sur les feux d'artifice aussi. Attention, dangereux. Ne faites pas partie des gens qui ont des mains arrachées chaque année au 31. Conduisez pas bourré. Si vos potes menacent de conduire bourré, vous les empêchez de conduire bourré. Vous les prenez par le bras, vous lui dites non, viens, on va se coucher. Tu le mets dans le canapé, tu lui files un édredon, tu te démerdes. Laissez pas vos potes partir bourré en voiture. Courage si vous êtes tout seul aussi ce soir, mettez-vous bien. Je sais qu'il y a des gens qui vont organiser des trucs sur Twitch, bon enfant, des Red Wo et tout. Donc kiffez bien la Twitcherie cette nuit. Moi je retrouve demain, hein. on va refaire un stream demain. Non, j'ai une réunion demain. Non, c'est lundi ma réunion. On est quel jour? J'ai plus. Aram du Nouvel An, ouais, voilà. Attention au consentement. Oui, attention au consentement. La meuf un peu mignonne là que vous chauffez depuis le début de la soirée et tout. Attention, vous êtes peut-être un peu bourré et peut-être un peu lourd et peut-être que son consentement vous y faites pas trop attention. Donc vérifiez, posez la question. Ouais, t'as raison de le rappeler. Respect du consentement. Voilà, le consentement, c'est important. Entre adultes consentants, on peut faire des choses très chouettes, mais on peut aussi faire des choses très très moches entre adultes quand il n'y a pas de consentement. Donc ne faites pas ça. Oui, c'est vrai, peut-être qu'elle rigole parce qu'elle est gênée. Oui. Elle n'ose pas vous dire que vous êtes un peu lourd et que quoi qu'il se passe, elle n'a absolument aucune envie qu'il se passe quelque chose d'ordre sexuel avec vous ce soir. Hop. Année 2023, faut trouver une rime. Bon, ça, je l'ai pas. Merci, Nibirius. Ça vaut pour les hommes aussi, le consentement, c'est pour tout le monde. Ça vaut pour les hommes aussi, c'est vrai. C'est vrai. Ne partez pas du principe que le consentement est acquis, il ne l'est jamais. Il ne l'est jamais que quand il est exprimé. Clairement. T'es 2023, t'es mal à taille du rat. 2023, année du 49-3. C'est vrai. Non, mais 2023 sera l'année du retour de Baxit. Et ça, c'est cool. Ça, c'est important. Ça, on y accorde l'importance. Moi, j'espère que 2023 sera l'année de la continuation. De l'augmentation de cette chaîne, qu'il y a encore plus de copains qui nous rejoignent, de copains et de copines, qu'on continue à rigoler sur l'actualité politique, à apprendre des trucs, à s'entreprendre des trucs, c'est cool. T'as fait 3000 euros en une journée sur Utip. Je préférais qu'on fasse 10 000 euros par jour. Mais voilà, 2023, plan A3, ouais. D'ailleurs, vous verrez sur le Utip, donc comme je vous le disais pour Baxit, on va mettre en place dans les prochains jours des contreparties, des paliers, etc. Donc on va voir ce qu'on va faire, des t-shirts, des mugs, des trucs comme ça et tout. Ça va arriver. Je vous avais dit que ça arriverait dans un second temps, donc ça va arriver. Des capotes Baxit. Non, je crois pas qu'il y ait de capotes. Désolé. Et si on faisait un don de 2023 euros, ne t'empêche surtout pas de faire un don de 2023 euros. La blague est excellente. Mais il faut que la blague soit bonne, il faut aller au bout de la blague. Il faut vraiment le faire, le don. Toujours fin janvier pour Baxit. Courant janvier. Je vous tiendrai au courant. Je vais regarder les produits qu'il y a dans la boutique. C'est quoi les produits dans la boutique que je peux mettre en vente? Enfin, les contreparties. Article shop exclusif. Gérer mon shop. Ah oui, c'est ça. Ça, c'était les produits qu'on avait l'année dernière. Ça, on peut mettre le logo si on veut. Regardez. Veux qu'on fasse un brainstorm ensemble? En vrai, ouais, en vrai, je suis partant. Alors le problème, c'est que j'ai pas, je suis pas sûr d'avoir le logo au bon format. Je vais regarder si je l'ai. Auquel cas, il y a moyen qu'on fasse un petit brainstorm. Affichage. Hop, hop. Toum, toum. Ouais, si, c'est bon, je l'ai. Non. Il est où? Il est où? You le go. Il est là. Hop, générer des produits. Il faut brainstormer quoi? Il faut brainstormer des contreparties cool en échange des dons. On en est eu des compensations Ulule de Baxit, c'est un peu long. On en est que les contreparties sur le financement de la saison 1 ont été retardées à cause des difficultés financières qu'on a rencontrées avec mon ancien coproducteur à la fin de la saison. Et comme on avait prévu d'envoyer toutes les contreparties à la fin de la saison, elles sont tombées pile poil au moment où justement elles n'ont pas pu être produites ni envoyées. Mais mon ancien coproducteur m'a annoncé la bonne nouvelle qui est que sa situation s'est améliorée et que normalement, si tout se passe bien, dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir recevoir enfin, si je puis dire, vos contreparties de la saison 1. Donc on fait notre maximum. Et je suis plutôt content de cette nouvelle parce que moi j'étais plutôt parti dans l'idée que malheureusement on allait devoir faire une croix dessus et ça m'aurait énormément emmerdé, mais finalement on devrait y arriver. Merci David Pujadas pour ton Prime. Ah non, pas vite du Jadas, pardon. Alors qu'est-ce qu'on a? Le t-shirt? Ouais. Le sweat. Ouais. Les coques de téléphone. Ouais. Ouais, non, mais non. Le mug. Oh. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Poster mat haute qualité. Ouais. Sticker à bord blanc. Carte postale standard. Masque facial de qualité supérieure. Ah, c'est le masque. Et c'est tout ce qu'on peut faire? Dans le shop? Y a pas mieux? Y a pas de capote. Y a pas de capote, non. Y a pas le guide détail, etc. Tous les produits. On a pas plus des produits? Tu me diras, c'est déjà bien, hein, la carte postale, le sticker. Bon, il faut que j'améliore, il faut que je fasse un meilleur, il faut que je fasse un meilleur fond. Moi, je voudrais une cagoule backseat et des barésilles. Non, mais le t-shirt à capuche, il est cool, hein, en blanc comme ça. Backseat et ça propose pas un siège auto, une honte. Mais tu sais que si ça tenait qu'à moi, ça me ferait marrer qu'on propose une housse de siège arrière de 206, de Clio 206. Ça, c'était les modèles de l'année dernière. Les t-shirts de Noël et tout. Non, bah visiblement, on a pas le choix. Hein. Et alors du coup, si je mets... Hop, si je mets ça, si je mets avec le fond. Effectivement, la marge n'est pas très élevée sur ce type de produit. Ouais. Un coffret gourmand. Un random Mario. Je drop this king. Ah non, mais ça, c'est les mêmes que je partage sur Twitter. Une gourde backseat. Ouais, ce serait bien une gourde. Bah, un mug, déjà, c'est cool. Alors, par contre, je vous l'ai dit, hein, ça semble quand même très cheap, le petit logo sur le vêtement, surtout avec la marge très faible qu'il doit y avoir. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Attention, hein, je vous rappelle quand même un élément important. Les goodies, c'est cool. C'est sympa, hein, le t-shirt, le mug, la capote, la coque de téléphone et tout, c'est cool. Mais le but, c'est de financer Backseat. Donc, ça va coûter cher. Ne vous dites pas, j'achète un sweat ou un t-shirt ou un mug. Dites-vous, je fais un don à Backseat et en échange, j'ai un petit objet cool. Ceux qui vont me dire quoi, c'est 100 euros le t-shirt ? Non, c'est pas 100 euros le t-shirt, c'est 100 euros le don à Backseat qui déclenche en échange l'envoi d'un t-shirt pour vous remercier. On est d'accord, hein ? Clairement, j'ai mis 50 euros, je veux rien comme goodies. Alors, vous pouvez aussi tout à fait ne pas avoir de goodies en échange. La planète s'en portera mieux. Voilà, n'échangez pas, voilà, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que ça rend avec le logo, avec le fond ? Ah ouais, c'est moche, hein. Il n'y a rien qui va. Non, il n'y a rien qui va. Ah, le mug est moche. Bah, ça va être des stickers et des cartes postales, les enfants. Hein. CKS. On peut avoir un Jean Massier en plastique qui dodeline de la tête sur le tableau de bord. Tu déconnes, mais tu sais que j'ai voulu le faire, ça. Non, mais c'est ça. Un jour, je créerai un shop Jean Massier sur lequel vous pourrez acheter un petit Jean Massier qui fait ça, comme ça, que vous le mettrez dans votre bagnole, qui dodeline de la tête. Non, non, mais on voulait déjà le faire l'année dernière. On voulait faire les capotes, les strings. On voulait... Non, mais on avait plein de d'idées trop débiles, hein. Faudrait quasi enlever le fond bleu du logo pour que ça rende bien. Non, mais on l'avait fait tout à l'heure et ça rendait pas mieux, hein. C'était pas ouf. Mais on va trouver. Est-ce que tu aurais une tranche de prix ? Non, je vais faire les calculs demain et lundi avec François et Quentin. On va en discuter. Mais ça va être cher. Hein. Enfin, ça va être cher. Voilà. Encore une fois, pardon, hein, pardon pour ce disclaimer un peu chiant et un peu long et un peu rébarbatif, mais. Nous, on veut financer Backseat. C'est ça le but du jeu. On n'a pas encore les capotes Backseat. Non, pas encore. Un gilet haute visibilité plutôt qu'un machin tableau de bord. Oh, j'avoue, le gilet jaune. Mais attends, mais il y a quoi comme shop comme ça ? Il y a quoi comme shop d'influenceurs, là ? Comment ça s'appelle ? Zerator, il passe par quelle boîte déjà ? C'est comment elle s'appelle la boîte de goodies ? Pour le The Event, la Zilan et tout. C'est Panoply ? Individuals ? C'est Panoply ? Je crois que c'est Panoply. Je suis pas sûr. Ouais, c'est Panoply ? Il passe par Rudy. Ouais, c'est Rudy. Rudy ? Voilà. La plateforme pour fidéliser, remercier et valoriser. Moi, je veux vous fidéliser. Produit. Textile. Alors du coup, est-ce que je peux créer mon truc ? Non, je peux pas. Cache webcam. Ah, on va pouvoir faire les yeux. On va pouvoir mettre mes yeux en cache webcam. Oh, ça va devenir débile très vite. Télétravail, naissance, séminaire, mariage, Made in France, Noël, nouveauté. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Bureau abandonné, technologie, événements, Noël. Sticker et badge, bracelet, éco-cup, accessoires pour événements, accessoires de sport. Ah oui, non, mais ça, c'est un truc de... C'est pas un shop en ligne, en fait. C'est un truc où tu commandes en gros. T'en commandes 3000 et c'est toi qui te démerdes pour les envoyer. Ouais. Teespring ou Redbubble? Une marque de print on demand en un rien de temps. Lancez votre marque d'impression. J'ai pas envie de te filer mon mail. Démarrer un essai gratuit. Nous allons vous lancer en fonction des besoins de votre entreprise. Ah non, non, attends, il va me faire configurer un shop. Ah non, 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 non. Enfin, si, en même temps, c'est ce que j'étais en train de regarder. Non, eh, vous savez quoi? On fera ça une autre fois. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est les contreparties non physiques. Qu'est-ce que on peut proposer comme contrepartie cool qui permet aux gens de faire un don sympa? Avoir son nom au générique, moi ça me fait marrer, donc je pense qu'on va essayer de le refaire. Pour toutes les personnes qui ont donné, vous aurez votre nom au générique. Venir sur place, ouais, la place dans le public, effectivement, ça je suis d'accord. La place dans le public, ouais. J'avais pris des notes, faut que je les retrouve, les notes que j'avais prises. Un rôle sur Discord, ouais. Une place dans le public et une place avec un plus 1, ouais. Avec une petite remise, ok. Une plaque de titre celle du The Event, bah. Ouais, mais faut la faire quoi. Donc on avait dit quoi? Rôle sur Discord, pas dans le public. Nom dans le générique. Une plaque de type The Event, ça coûte cher, ouais. Mais ça, on peut le réserver aux personnes qui donnent plus de 500 euros. Hein. On peut aussi décider que c'est un truc un peu exclusif. Il y a très peu de plaques qui ont été éditées. Voilà, on peut aussi décider de ça. Hein. Une participation à la conférence de rédaction. En fait, on voulait le faire l'année dernière, mais pareil, on avait prévu de le faire sur les dernières émissions de la saison, et comme elles n'ont pas été... Je suis un peu traumatisé de l'année dernière, je vous avoue. Une émission tous les jeudis parlant de politique, ce serait pas mal comme récompense. Mais ça je pense que ça va être la première contrepartie. Voilà. En échange de votre don, il y aura une émission. Le droit de poser une question. Oh non, j'ai pas envie de vous faire payer pour... Oh non, j'ai pas envie de jouer à ça. Oh. Non, non. Une entrée à l'after. Ah, mais l'after, c'est réservé aux personnes qui sont dans le public le jour J. Hein. Une visite du groupe de l'Assemblée nationale par Jean Massier. On n'a pas le droit de financer, de faire financer. Merci à l'illustre inconnu qui a fait un don de 100 euros. Merci beaucoup. Merci pour les 100 balles. Merci. Une visite de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais ça, j'ai interdit de le vendre. Hein. C'est interdit de vendre une visite de l'Assemblée ou du Sénat. Boire un verre avec toi. Oh, bah ça s'appelle déjà les apéros qu'on fait dans les villes. Hein. Demande à ChatGPT comme pour ton tweet. Non, c'est Pemf qui a demandé des idées de contrepartie. À ChatGPT, il avait pas des bonnes idées. Hein. C'était pas ouf. Une notif à la con sur le live comme au The Event. Bah regarde, elle est là. Hein. Si vous faites des dons, elle s'affiche la notif. Pourtant, il n'y a pas de son. C'est un peu bizarre ça. Laisse-moi vérifier si je dois allumer un truc. Y a pas de son sur les alertes Utip. Dommage. Un date avec Léa. Ah bah bravo. Ah bah c'est du propre. Ah bah bravo. Une chronique dans l'émission ou la possibilité de sponsoriser une séquence dans l'émission. Alors, ça vous pouvez le faire. Mais il faut nous contacter. Ça s'appelle le before de Backseat. Vous pouvez vous offrir un before de Backseat. Je ne sais pas pour quelle boîte vous bossez, ou dans quelle institution, ou dans quelle assoce et tout, mais vous pouvez sponsoriser une émission Backseat. Une carte postale à la con. La possibilité de pouvoir mettre un objet de son choix dans le décor. Non. Non, je veux garder la main sur ce qu'il y a dans le décor. Voir comment vous préparez l'émission. C'est vrai, ça vous intéresse vraiment ça ? On pourra faire une vidéo. Réservée aux donateurs. Tu peux décider un nombre de contreparties payantes qu'on pourrait gagner au tirage au sort. Je ne sais pas si on peut le faire sur Utip, ça. À vérifier. Mais oui. Ah non, je suis pas sûr d'avoir le droit de faire du tirage au sort en échange d'argent. Je crois que c'est une loterie déguisée et que j'ai pas trop le droit à ça. Pour un gros don, genre 500 ou 1000 euros, une place pour un Backseat IRL. Ah bah les personnes qui donnent entre 500 et 1000, oui, elles auront le droit de venir dans le public, oui, ça c'est certain. Plutôt qu'une carte postale, une carte qui ressemble à une carte d'électeur qui se met dans le portefeuille. Bah, la carte électorale, la carte d'électeur. Mais ça, ça, encore une fois, ça va dépendre de notre capacité à trouver la fabrication du truc. Si vous voulez, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on a décidé, pour perdre le moins d'argent possible, d'internaliser la production et l'envoi des contreparties. Donc en gros, l'année dernière, parce que c'était intelligent ce qu'on a fait, on a dit, mais en fait, on ne veut pas passer par une boutique en ligne qui va nous prendre un fric énorme pour s'occuper de l'impression des t-shirts et de l'envoi par la poste. On va le faire nous-mêmes. Enfin, c'est la boîte de prod qui va s'en occuper, avec qui j'étais en coproduction. Et ça va nous coûter moins cher, et donc ce sera d'autant plus d'argent pour la production de Backseat. Donc ça a marché. Le problème, c'est que on avait prévu de faire tous les envois de contrepartie à la fin de la saison, notamment pour le e-book, parce qu'il y a un e-book imprimé, etc. Mais pour mettre des trucs dans le e-book, il fallait avoir des souvenirs de l'émission, quoi. Donc des photos et tout. Et le problème, c'est qu'on est arrivé à la fin de l'année, au moment où on a rencontré des difficultés financières, et on n'a pas pu produire les dernières émissions de l'année, et on n'a pas pu, du coup, envoyer les contreparties non plus. Donc moi, je me suis retrouvé comme un con, du coup, à ne pas pouvoir vous envoyer vos contreparties alors que vous avez donné de l'argent pour ça. Ça me fait chier. Et du coup, moi, je m'étais dit cette année, je veux plus faire ça. Je ne veux pas avoir à gérer les contreparties. Si les gens reçoivent un truc par la poste, je veux que ce soit géré automatiquement par une boutique, un shop, par Utip, etc. Comme ça, pas de problème. Quelle que soit la santé économique de mon coproducteur, c'est pas le sujet. Les gens recevront leur contrepartie. Voilà. C'était ça mon idée cette année. Un accès à ton OnlyFans. Non. Donc, soit les contreparties sont dématérialisées, genre le nom dans le générique, soit elles sont automatisées. Mais je veux plus avoir de fragilité dans le système qui fait dépendre les donateurs d'une tierce personne. Tu veux pas payer mais sans déléguer. Ben non, si, justement, je veux déléguer. C'est pour ça que quand vous me dites qu'il faudrait faire une carte électorale ou une carte de parti politique Brexit et tout, à chaque fois je vous dis attention, moi je veux pas avoir à imprimer des cartes, les recevoir chez moi, les mettre dans des enveloppes, etc. Parce que j'ai pas la garantie d'être en mesure de le faire. Je veux que ce soit automatisé. Or, je ne connais aucun site qui... Alors après, on peut prendre la carte postale de Brexit et en faire une version carte électorale, si vous voulez. Mais bon, ce sera une carte postale, quoi. Il faudra la plier en deux. Voilà. Ce serait intéressant pour la pérennité de Brexit d'avoir un truc ultra visible. Bah, des stickers en vrai. Hein. Des stickers, comme ça, vous pourrez les coller dans les toilettes des bars. Mais ouais, stickers, badge. Badge pins, ouais. Il faut qu'on puisse arborer des machins. Non, mais je suis d'accord, hein. T-shirt aussi, hein. C'est con, mais... T-shirt sweet. T-shirt sweet casquette, ouais. Bonnet. Tote bag. Mais ça, on a vu sur la boutique Utip, il n'y a pas tout ça. Nous, à chaque rencontre, on échange des cravates, vraie histoire. Merci Escalator Shrine. Une banderole Brexit 2027 pour mettre dans les jardins devant les maisons. Et on est à 42 000 euros, extraordinaire, merci à vous. Merci beaucoup. Tapis de souris, de clavier, cache webcam, etc. Bah, encore une fois, hein, on est allé sur Utip, on a regardé dans la boutique, il n'y a pas tout ça. Donc je vais essayer de voir, je vais checker s'il y a d'autres trucs, mais j'ai pas l'impression. Je verrai. Un mug quand t'as des collègues de bureau curieux, c'est top pour la pub. Ouais. Ouais, grave. Bon, vous savez quoi? Il est 19h13. Moi, je vais aller prendre une douche. Je vais me préparer pour mon réveillon. Je vais vous faire des bisous. Encore une fois, vous remercier du fond du cœur pour cette très belle année. Je vous retrouve dès demain. Je vous retrouve l'année prochaine. Putain, je vous déteste. On va faire un raid chez Kyria, tiens. Allez hop, raid chez Kyria. K-Y-R-I-A. TV, ouais, c'est bien ça. Dernière raid de l'année chez Kyria. Merci à toutes et à tous pour ce live. C'était coolos. Je vous fais des bisous. Je vous remercie. Kyria qui a fait un don à Brexit. Hein. Elle a fait un don à Brexit. Hein. Faites des dons à Brexit, comme Kyria. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Je vous fais des bisous. C'était cool. On se retrouve demain de retour en stream. Je sais pas, à mon avis, probablement du Flight Simulator. De toute façon, je serai en gueule de bois de l'espace. Donc, ça va être vite vu. Des bisous. Merci à tous. Ciao. Passez une bonne soirée. Soyez safe, bisous.